présupposé théorique vous amène à une lecture sécularisée de la Megillat Esther, à mon sens, définissant ce que vous nommez une politique alternative de la survie. Le miracle de Pourim serait, selon vous, un miracle d'ordre exclusivement politique, résultant seulement de l'action des hommes. D'où encore un certain nombre de questions. Une question donc générale, d'abord, vous focalisez la notion de politique sur l'état d'urgence, de survie, d'exception, comme origine de la souveraineté. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas la penser aussi sur le mode, alors puisque vous utilisez des concepts schmittiens, moi j'utilise un concept heideggerien, sur le mode de l'habiter, de l'habitation, de l'installation, y compris en exil ou dans l'univers en général. Est-ce que la Torah n'en fournit pas un modèle, par exemple dans le Lévitique, dans l'unité, le Rav Kornstein évoquait l'autre jour l'unité du peuple qui est sourd dans le sacrifice, dans le Korban Pessah. La Torah, au fond, équivaut-elle à ce rejet du politique parce que Dieu y est non seulement présent mais manifeste? Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'agir, il y a une définition de l'agir, le Ishtadel humain par la mitzvah et la prière aussi, telle que la Torah en circonscrit le sens. Mitzvah ou prière matérielle, elle aussi, qui ont un temps matériel, puisqu'elles s'inscrivent comme attachement dans l'espace, le mouvement du corps, le son. C'est une des questions. Autre question, votre regard sur le source est extrêmement fécond, mais le cadre de votre analyse ne restreint-il pas la perspective qu'on pourrait se faire de la politique juive? Par exemple, un exemple qui me paraît significatif. Asuérus est tiré par vous du côté de ce que vous appelez la théorie du dédoublement, le roi de chair et de sang devenant dans son palais de plus en plus assimilé au temple de Jérusalem, l'analogone du Meller idéal, c'est-à-dire de Dieu, avec ou sans majuscule. Alors, quelles conséquences aurait sur votre vision de la substitution de l'un par l'autre et sur votre théorie de la politique juive en général, celle d'un Assuérus, au fond, fou, déviant ou usurpateur, telle qu'elle existe aussi dans le Midrash et telle que le Rav Kornstein nous l'avait décrit, ayant plongé la Perse dans un état d'anomie tel qu'il apparaît dans d'autres commentaires? Plusieurs penseurs juifs contemporains ont cherché à montrer que la civilisation juive, pour reprendre la catégorie de Shmuel Eisenstadt, proposait une vision alternative du politique. Par exemple, avait noté Shmuel Trigano, qui s'en inspire un peu, l'Hérouve, le thème sur lequel politique réfléchit abondamment par ailleurs, définissait, selon lui, à nouveau frais la répartition entre espace privé et espace public. Alors vous mettez en avant que l'expérience juive, vous parlez de fait juif de l'exil, met en scène, oserait-on dire, un modèle qu'on pourrait opposer à celui de l'État-nation européen. Alors, ce que j'aimerais savoir aussi, au cours de la discussion, c'est en quoi consiste ce modèle, dès lors que vous affirmez, avec raison, ne pas céder au romantisme du nomadisme qui avait mis le judaïsme à la mode auprès des intellectuels dans les années 60, 70, et peut-être sur un malentendu. Finalement, on pourrait résumer ma question, quel rôle joue le territoire, la terre, selon vous, dans la politique juive? Vous évoquez aussi, à la suite d'Aviezer Ravitsky, le cadre alternatif des trois promesses, qu'il ne monte pas en Israël Bahoma par la force en escaladant la muraille, qu'il ne se révolte pas contre les nations et ne précipite pas la fin, que les nations n'asservissent pas Israël à un joug trop pénible, selon la formulation de Sanhedrin 92b, qui a servi de base à la grande majorité du monde orthodoxe à rejeter le sionisme politique comme phénomène de Drikat Haketz. Alors, s'agit-il d'un pur et simple refus politique ou encore d'une politique qu'on pourrait encore imaginer autrement, et si oui, comment? Enfin, dernière question, vous comparez dans votre livre Pourim avec l'Exode, mais il y a un autre comparant, Yom Kippourim, que vous n'évoquez pas du tout, et généralement vous avez tendance à laisser de côté, dans votre livre déjà très très riche, tout en les citant à l'occasion, les lectures kabbalistiques de la Megillah, ainsi que le traité talmudique qui porte ce nom, Megillah. Cela implique-t-il dans votre idée qu'il faille absolument que Dieu se retire pour préserver l'agir du peuple? Est-ce que le lien à Dieu et l'agir politique ne sont-ils pas pensables d'un même tenant? Puis sur le mode du paradoxe, kierkegaardien, ou autre. Voilà, ce sont quelques-unes des questions que me semble soulever votre admirable travail et qui doivent nous lancer dans la voie du dialogue, de la confrontation, qu'il soit politique, intellectuel et en tout cas asymptotique entre notre tradition, celle qui est défendue ici dans ce Beta Midrash, et la cité, et prolonger les réflexions que vous avez brillamment engagées. Je crois que c'est à vous de parler.
Donc, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je suis intimidé de parler devant cette assemblée qui comprend un rabbin réputé, mais je vais essayer de tenir mon rôle le mieux possible. Alors, il y a beaucoup de questions. Certaines d'entre elles, me semble-t-il, se recoupent. Donc peut-être que dans ma réponse, les choses vont un tout petit peu se mélanger. Alors, peut-être une première chose sur politique juive. Généralement, quand on a tenté de penser ce que pouvait être la politique juive, et là, j'ai touché immédiatement à votre troisième question sur les serments. On a pensé que dès lors que le judaïsme avait une face politique, on pensait au messianisme. Ça a été la manière la plus habituelle, peut-être même la plus traditionnelle, de penser quelque chose comme une politique juive. Alors, peut-être qu'il faut faire remarquer que le mot politique n'a pas de traduction en hébreu. On n'en trouve pas d'équivalent ni dans les Écritures, ni dans le commentaire rabbinique. Le terme qui surgit très très tardivement, c'est le terme Médina. Je pense même que le Médini tiré de Médina est encore plus tardif pour dire politique. Et le terme lui-même, Médina, d'une part, il est ancien, mais quand au Moyen-Âge, il est remis sur le... Il est, disons, adopté dans l'hébreu médiéval, donc un hébreu, disons, on pourrait dire, moderne, d'une espèce de première modernité. Il est une retraduction du terme arabe qui lui-même reprend le terme chez les Grecs qui est la cité. Donc il n'y a pas d'équivalent pour politique. Alors bon, ça c'est un premier constat, c'est que en fait l'assemblement, parce que la politique, c'est, disons, on peut dire, c'est la politique chez les Grecs, c'est l'art de l'assemblement des humains, comment est-ce qu'ils s'assemblent et s'organisent, n'a pas de traduction donc en hébreu. Alors, du coup, la politique, en général, a été pensée comme la politique messianique, et naturellement, la politique messianique, elle se pense comme assemblement, puisque l'exil est dispersion. Israël ne peut pas former une cité parce qu'Israël est dispersé. Donc il forme certes des communautés, il forme des éclats, des morceaux, mais il ne peut pas former une cité. Et la politique messianique, c'est la promesse, c'est la perspective que dans l'avenir, il retrouvera l'assemblement et le territoire. L'assemblement sur un territoire. Il n'y a d'une certaine manière que l'Église qui a pensé l'assemblement sans territoire. L'Ecclésia aussi emprunte au modèle de la cité, de l'assemblement, mais c'est un assemblement sans territoire. Là, c'est une promesse d'assemblement sur un territoire. Alors, La question est quel genre d'assemblement, quel genre, disons, d'entité forment les Juifs dès lors qu'il n'y a pas de territoire et qu'il n'y a pas de principe, disons, d'assemblement, si ce n'est l'espoir qu'il y aura à nouveau un assemblement. Ce qui fait que, naturellement, la politique a été pensée à la fois comme quelque chose de restaurateur, la politique est restauratrice, puisqu'elle est censée acheminer vers un point de départ qui est la rupture avec l'exil, qui est la question du retour à Jérusalem, et naturellement à la fois comme une révolution, puisqu'en exil, la politique supposait justement de ne pas agir par soi-même. Pour agir par soi-même, il a fallu qu'il y ait en quelque sorte révolution. Ça veut dire révolution, ça veut dire un autre rapport à l'action pour que la politique puisse trouver une place. Alors, ça c'est un point, me semble-t-il, important parce que on en vient, me semble-t-il, à la question que vous avez posée à propos de Torah et politique. Si Dieu est le roi d'Israël, et si en exil le roi est dédoublé, donc si Israël est sous le joug et sous la protection de deux rois, il n'y a pas de place pour que s'ouvre un espace politique. Il semble qu'il n'y ait pas de place pour que s'ouvre un espace politique, c'est-à-dire un espace politique, c'est-à-dire l'espace d'une initiative. Or, ce que j'essaie de montrer à propos d'Esther, c'est que le commentaire rabbinique ménage un espace pour l'initiative. Mais il l'aménage de manière extrêmement circonscrite, de manière bornée, et il ne l'aménage que dans les moments. Alors c'est là que c'est vrai qu'il y a les termes de Schmitt qui surgissent sur l'état d'exception, mais on peut dire d'une certaine manière que dans la littérature rabbinique, la politique suppose la suspension de l'agir de Dieu, la suspension de la Torah, puisqu'autrement il n'y a pas d'espace d'action. Je reviendrai sur ce point de la question de l'action à propos des Lehishtadel. Et donc il a fallu trouver une manière de penser la possibilité d'agir sans trahir. C'est ça le dilemme dans lequel on se trouve. Il faut pouvoir agir sans trahir. Alors notamment le monde orthodoxe, si on revient au sionisme politique, a vu dans le sionisme politique une trahison. Puisque dès lors qu'on exproprie d'une certaine manière Dieu de l'initiative et qu'on force les barrières de l'exil, qu'on force, on trahit. Et on trahit naturellement parce que ce qui est demandé au peuple, c'est la confiance en Dieu. Donc, si le peuple agit par lui-même, c'est qu'il y a une espèce de fissure dans la confiance, un espace d'incertitude dans lequel on va pouvoir s'engouffrer avant d'agir, et donc, à ce moment-là, on entre en contradiction avec le fait massif que Dieu est le roi. Et dans le sens qu'il est le roi, il est à la fois le législateur, il est à la fois le protecteur de son peuple. Alors, l'axiomatique du gardien, c'est exactement c'est pas une doctrine, c'est une, disons, une lecture de la situation, on pourrait dire, c'est une lecture de la situation dans laquelle on arrive à penser à la fois le fait d'être sous le joug et la protection de Dieu. Donc on est à la fois, d'un point de vue législatif, soumis à deux lois, d'où toute la difficulté de les composer, de les rendre compatibles, et le principe d'Ina de Malchuta d'Ina est fait pour construire ces compositions. Et en même temps, il y a la possibilité de s'adresser ou d'entrer en rapport, alors naturellement le mot est forcé, avec deux dieux, naturellement, qui ne sont pas deux dieux, qui est Dieu et qui est le pouvoir suprême, qui est le roi. C'est pour ça que dans le Midrash, les rabbins disent, quand il est écrit Assuérus tout seul, Amelech, sans préciser de qui il s'agit de Hakadosh Baruch Hu, c'est bien le roi des rois dont il s'agit, mais quand il y a marqué Melech Achashverosh, à ce moment-là, il s'agit bien de ce roi-là, de chair et de sang, et d'une certaine manière, les Juifs regardent en deux directions. Le messianisme, c'est le contraire, c'est regarder dans une seule direction. C'est résorber la dualité ou la séparation des deux instances, les rassembler en une seule. Alors, pour les Ishtadel, j'ai regardé un tout petit peu, parce que donc on sait que, naturellement, dès lors que le roi est dédoublé, on va pouvoir agir, puisqu'on va pouvoir non seulement s'adresser au roi des rois, mais s'adresser au roi lui-même et établir un type de rapport avec lui pour le conduire à faire ce que devrait lui inspirer, et il y a tout un ensemble de justifications, le roi des rois. C'est-à-dire que la fonction protectrice passe de Dieu au roi souverain. Et il y a toutes sortes de justifications pour le faire. C'est un peuple invité. Il y a tout un... J'essaye de montrer la manière dont les Juifs s'adressent en roi, essayent de le convaincre qu'il agit dans le bon sens s'il protège les Juifs. Alors, naturellement, pour s'adresser au roi, il faut qu'il y ait, comme vous dites, il faut qu'il y ait l'intercesseur. L'intercesseur, c'est celui qui prend l'initiative, qui agit. Naturellement, quand Esther dit « Je dis pour moi, c'est Pessah » et pourtant, on passe outre. On passe outre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on ne va pas compter sur sur le schème, disons, de la libération, sur le mode de l'exode. C'est-à-dire où le peuple, et les commentaires insistent énormément là-dessus, le peuple est libéré par Dieu et par Dieu uniquement. Personne d'autre n'intervient. Donc c'est lui, hein, le texte insiste, de sa propre main qui vous a libéré, etc. Et là, tout à coup, il faut en quelque sorte suspendre la confiance, un moment, le moment d'une brèche, pour que l'action puisse s'engouffrer. Et donc, il faut un moment que la libération sur le mode de l'exode soit en quelque sorte suspendue, pour qu'un autre type de... on pourrait dire de libération, de sauvetage, puisse intervenir, qui lui va dépendre de la capacité du peuple d'agir de lui-même. Ça peut se dire sans Carl Schmitt. Mais on voit bien que cette politique-là, c'est une politique qui est une politique intermittente. Elle n'a à s'exercer que dans la crise. Or, la crise est intriquée dans la définition de l'exil. Elle est intriquée dans la définition de l'exil, puisque l'exil, c'est le passage, de la même manière que l'exode est le passage du joug de Pharaon au joug de Dieu, l'exil est un passage partiel du joug de Dieu au joug du roi étranger. Alors, on voit dans les commentaires du livre d'Esther où le mot... Alors, l'intercesseur, son terme moderne, et on le voit apparaître, mais très très tardivement, on le voit apparaître dans le monde ashkénaze après le Moyen-Âge, au XVIe siècle, c'est le shtadlan. Alors, l'étymologie, si on prend les dictionnaires, on regarde un peu la littérature... L'étymologie du shtadlan vient de l'ishtadel, qui signifie en hébreu s'efforcer, tendre vers. Et le mot ishtadlut qui en est tiré, c'est la chose réalisée. Alors c'est un travail que je suis en train de conduire qui n'est pas terminé. J'ai interrogé les historiens, etc. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le shtadlan, etc. Il n'y a personne qui a véritablement de réponse qui puisse établir le lien entre l'ishtadlut, et qui est un verbe d'action. Si vous prenez le livre d'Esther, vous allez voir, c'est sans verbe d'action. C'est un récit très typologique, avec des rapports entre des personnages, mais les personnages ont très peu de subjectivité. Et progressivement, dans les commentaires, en particulier au Moyen-Âge, les personnages commencent à avoir une subjectivité. Et naturellement, le terme l'Ishtadel, qu'on trouve dans les Écritures, pas sous cette forme, mais qui trouve sa racine, tout à coup, les textes sont remplis de l'Ishtadel. Ce qui est quelque chose de tout à fait remarquable. Alors, cette, disons, possibilité d'agir par soi-même, elle trouve sa racine, me semble-t-il, dans le commentaire que font les rabbins du livre d'Esther. Alors, et naturellement, pour les mitzvot, parce que vous m'interrogez là-dessus, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que les ishtadel vient faire quand on parle d'une mitzvah? En fait, une mitzvah ne suppose pas la ishtadlut. La mitzvah, ce sont des commandements. Ce sont des obligations. Ça ne suppose pas un engagement subjectif pour réaliser une mitzvah. Ça demande de la réaliser. Or, le terme l'ishtadel ne veut pas dire accomplir une mitzvah. Le terme l'ishtadel veut dire s'efforcer de faire quelque chose au-delà de tes obligations. Donc, on considère quand il y a les ishtadel, ishtadlut, qu'on va réaliser quelque chose qui ne se résume pas dans le simple fait d'accomplir ce qui est prescrit, mais dans le fait de pouvoir dépasser, aller plus loin que ce qui est prescrit. Et ce vocabulaire-là, il est moderne. On ne le trouve pas, c'est pas un terme du Talmud. Peu important dans le Talmud, ça interviendra plus tard. Et ça interviendra, naturellement, plus l'idée que les choses qui se passent dépendent de l'engagement des hommes, y compris dans l'accomplissement des mitzvot, et y compris dans la sphère, disons, protopolitique, plus cette idée va prendre de l'importance et va ouvrir la possibilité d'apporter volontairement un changement dans le monde, d'agir, disons, avec un certain degré d'initiative, de liberté, etc., etc. Sur la question donc des doublements, Alors, Assuérus devient fou. Oui, bien sûr. On ne dit pas souvent qu'il est fou, mais on dit qu'il est confus. Je crois que le terme qu'il utilise, c'est Mubulbal. Il y a un midrash qui dit que Achashverosh veut dire qu'il est à l'envers, qu'il est retourné. Donc en fait, ça veut dire qu'il n'a pas de jugement clair. Et donc, il est ballotté, d'une certaine manière, par la cour qui est autour de lui, et dès lors qu'il tombe sous une mauvaise influence, il n'y voit plus clair et il a un jugement défaillant. Le commentaire dit la même chose sur la condamnation abrupte de Vashti, qu'il regrette lui-même. Donc là aussi, ça c'est très important, c'est qu'on voit dans la Megillat Esther et dans le commentaire qui en est fait, la décision qui est immédiatement regrettée. Mais le problème c'est que, une fois qu'on a décidé, c'est un peu, dit un midrash, comme la flèche qui est lancée. La flèche est tirée, et comment est-ce qu'on va l'arrêter? On regrette, mais elle est partie. Donc tout le livre est construit sur le mode de comment est-ce que la mort va être rattrapée d'une certaine manière. Alors Dieu est confus, mais en principe Dieu n'est pas confus. Donc le roi de chair et de sang est confus, mais Dieu n'est pas confus. Mais Dieu est hésitant, puisqu'il d'une part il promet à son peuple de durer pour toujours, qu'il aurait une descendance nombreuse, etc. Et d'autre part, il le menace d'anéantissement. Et c'est pour ça aussi que dans la lecture de l'attitude du roi, on a reconnu quelque chose de la caractériologie de Dieu, qui est une espèce d'oscillation entre la promesse d'être élu, d'une certaine manière, d'être le peuple élu parmi les autres, et d'autre part celui qui va et donc qui est promis à l'éternité, et d'autre part la menace de destruction si le peuple ne respecte pas le pacte qu'il a scellé avec Dieu et que Dieu a scellé avec lui, c'est-à-dire le respect, l'observance de la Torah. Alors sur le rôle alors il devient fou, il ne devient pas fou à Assuérus, il est confus, et toute la question étant de savoir si il va, donc dans les livres d'Esther, il agrée à la destruction du peuple, donc il est un roi dangereux, mais in extremis, et bien que la chose soit planifiée, cela n'aboutit pas à l'exécution du plan. Et c'est là tout le récit d'Esther qui essaye de s'expliquer ou d'expliquer comment quelque chose qui est voulu et planifié sera inexécuté. Alors, sur la question du rôle du territoire, est-ce que vous pouvez me repréciser la question à propos du rôle du territoire, la question
Oui, la question que si on pouvait définir la politique à partir de la situation exilique et de crise, qu'en est-il de d'une politique qui soit une politique de l'entité, qui soit une politique de la non-crise et qui serait définie par la Torah, par l'installation installation et établissement.
D'accord.
À sa manière, partiellement le lit. L'unification d'un oui.
Alors, c'est une question compliquée, mais je pense que. En fait, ce qui est frappant, c'est que le syntagme juif ne vient qu'avec l'exil. Dans la Torah, dans l'ensemble des Écritures, à part, c'est les rabbins qui font remarquer, à part dans Daniel, je crois, et ça prend encore un sens différent, Israël n'est jamais appelé juif. Notamment, il y a la tribu de Juda, il y a la Judée, il y a tout un ensemble de choses, mais juif ne vient d'une certaine manière, de manière explicite et surtout de manière, une manière univoque de nommer Israël dans Esther. Ish Yehudi Haya Beshushan. Ça, c'est l'occurrence, voilà. Mais les Ish Yehudi Haya Beshushan. Le récit se déroule en exil. Et donc la question du territoire, elle est très compliquée et elle est, et pour mieux, à mon avis, comprendre la situation dans laquelle les Juifs se sont retrouvés en exil, il faut reprendre Jérémie. C'est Yerushalmi qui fait remarquer ça. Dans Jérémie explique de manière assez circonstanciée au peuple ce qui va arriver depuis sa défaite devant Babylone. Il lui dit qu'il doit accepter l'exil. Il lui dit qu'il doit respecter le roi de Babylone. Il dit que du bien du royaume résultera son propre bien. Et il lui dit le temps de l'exil, qui notamment s'est avéré beaucoup plus long que celui annoncé dans Jérémie, parce que je crois que dans Jérémie, ça devait durer 70 ans. Donc tout le problème était après d'expliquer pourquoi l'exil durait autant. Mais je ferme la parenthèse. Mais dans Jérémie, le prophète dit aussi au peuple d'acheter un champ à Anatote. Dans le moment même où le peuple s'exile, doit partir, quitte la terre, on lui dit d'acheter une petite parcelle de terre. Alors, il y a là quelque chose de paradoxal. On lui dit d'une part de quitter le pays, d'accepter de quitter le pays parce qu'il est vaincu, et s'il est vaincu, c'est de sa faute, mais qu'il pourra quand même vivre en exil s'il respecte le roi de Babylone, s'il se soumet à son autorité, etc. Et d'autre part, on lui dit d'acheter un petit morceau de terre cultivable. Alors voilà, on a là, en fait, la tension, qui est la tension, disons, fondamentale, dans laquelle les Juifs en exil vont vivre. C'est-à-dire, d'une part, la politique, qu'on pourrait appeler la politique extérieure, mais on peut dire la politique extérieure. C'est-à-dire que la survie suppose de se soumettre à la domination du roi étranger, de négocier avec lui, y compris du point de vue de ce que permet, de ce qu'il est permis dans le cadre de l'autonomie à l'intérieur du royaume. Et d'autre part, il a acheté quand même un morceau de champ cultivable à Anatote. C'est-à-dire, et ça c'est la politique messianique. C'est-à-dire, c'est l'idée que il y aura retour. Mais l'idée qu'il y aura retour ne fait pas une politique. Elle fera politique plus tard, mais elle ne fait pas. Elle a reçu des substituts. Je veux dire, d'une certaine manière, l'ère de l'émancipation, beaucoup de juifs l'ont compris comme ça, a été pensée souvent comme l'arrivée de temps messianique. Surtout en France, pas seulement, mais surtout en France. Or là, naturellement, on est dans une espèce de messianisme inversé, puisque le pays de la libération, effectivement, on n'est plus, l'exil n'est plus le pays de l'aliénation, mais le pays de la libération. Et donc, le messianisme retenu par l'achat d'un champ à Anatote perd en quelque sorte ce report ou se déporte sur le pays de résidence. Mais généralement, les deux sont scindés. Alors c'est dans cette tension et les trois serments que vous évoquez, elle contient cette contradiction. Elle la contient. C'est une feuille de route un peu impossible en réalité, un peu intenable qui est prescrite. C'est-à-dire pour autant que votre condition est acceptable, vous ne sauterez pas les barrières de l'exil, raison pour laquelle les rabbins qui ont quand même, ils étaient très minoritaires, mais ont cautionné la politique sioniste, ont dit oui, mais si on regarde bien les trois serments, il est évident que là on est franchement trop maltraité. Donc d'une certaine manière, si de leur côté les nations ne font pas leur part, nous non plus, on n'est plus dans l'obligation de faire notre part, ce qui ouvre naturellement la possibilité d'acquiescer à l'idée d'œuvrer soi-même à son propre retour. Mais c'est très tard, c'est incroyablement tardif. Là, on est au plus, disons, on est dans les années 1880. C'est très tardif. Alors sur les lectures kabbalistiques, franchement, je n'y connais rien. Et je n'y connais rien, donc je ne peux pas en dire grand-chose, simplement qu'il apparaît clairement qu'au Moyen-Âge, en tous les cas, il apparaît clairement que une lecture politique d'Esther devient de plus en plus évidente, et quand je dis politique, ça veut dire de politique mondaine, c'est-à-dire en termes de stratégie, en termes de tactique, en termes de comment il faut agir, ça apparaît de plus en plus clairement. Et d'autre part, les lectures kabbalistiques d'Esther aussi ont de plus en plus se multiplient et ont apparemment de plus en plus d'écho. Mais naturellement, la politique, la lecture kabbalistique d'Esther est une lecture messianique. C'est une lecture messianique, c'est cette idée que, dans le texte, il est marqué à la fin, Fatil Bash Esther Malchut, elle se part de la royauté, et notamment pour un texte kabbalistique, se parer de la royauté, c'est en quelque sorte une réconciliation du peuple avec Dieu. Elle est en quelque sorte son épouse, alors pas du roi Assuérus, mais du roi des rois. Et donc j'ai laissé ça de côté parce que ce sont des lectures qui obèrent en quelque sorte la possibilité de la politique. Je veux dire, elles existent naturellement. Mais comme j'ai essayé dans le texte de me centrer sur ce qui la permettait, sur ce qui contribuait à pouvoir reconstituer une politique juive, et c'est pas seulement la reconstituer, c'est que je pense qu'elle a été effectivement menée de cette manière-là, j'ai laissé du coup les lectures proprement mystiques du livre d'Esther de côté. Alors quand vous dites une lecture, je ne sais plus, vous avez utilisé l'expression une lecture séculière, vous avez dit peut-être
sécularisée.
Ouais. Mais en fait, je pense que il y a, je pense pas que ce soit une lecture sécularisée. Je pense pas que les rabbins ont, ou bien ils sont déjà sécularisés, ou bien ils n'ont jamais été désécularisés. C'est-à-dire que je pense que la politique, il n'y a pas de séparation entre la politique sur terre et la politique au ciel. Et que donc, du coup, quand on dit séculariser, je pense qu'on importe des catégories qui sont des catégories du christianisme. Il y a une voie juive, on pourrait dire, vers la sécularisation, mais il faudrait la définir. Elle ne se déploie probablement pas du tout de la même manière qu'en monde chrétien. Et c'est pour ça d'ailleurs que le chef du gardien ne suit pas la même logique et la même voie les métamorphoses du pouvoir et de la souveraineté en Europe, dont l'État-nation est le produit le plus récent. Il écrira peut-être un texte dans le Nouvel Obs alors. Il a pris sa retraite.
Non, il a une pratique pas d'arrivée, mais voilà. Il a pris sa retraite, plus tellement. Allez-y.
Oui, moi après ce qui était dit, je vais prendre un point de vue un tout petit peu différent, mais je suis ravi que Danny Fromm soit là pour débattre un petit peu, parce que je trouvais qu'effectivement, au moment où le bouquin est sorti, donc on a fait beaucoup de bruit tout à fait justifié autour, moi j'étais en train d'étudier le traité Bigila avec des camarades, et j'ai été frappé tout de suite, ça m'a posé question quelque part, comme on dit, parce que je suivais très fidèlement le traité de Médina, enfin j'essayais de comprendre quelle était l'intention de Razal dans ce traité de Médina. Donc on est amené, disons, à une lecture sainte d'un Médina, parce que finalement, c'est la décision d'en faire un texte. Un texte saint, un texte qui rentre dans le canon, un texte saint, un référencement énorme, finalement. Et arrive Audit qui dit, mais bon, il y a une lecture politique aussi qui peut être faite. Enfin, je simplifie, pardonnez-moi.
Oui.
J'ai déjà dans la petite tête de simplifier les choses, mais je vais
dire comme ça. Oui. Voilà.
Alors, j'étais un peu intrigué. Oui. Ça, c'est la première chose. Deuxième question, là, j'étais un peu plus amer, parce que je disais, j'ai lu Wolfie, du coup, aussi, bien sûr, beaucoup d'intérêt. Je suis tombé dans des pages, là, 419-420. Alors là, qui m'ont laissé un peu peut-être vous parler du doigt, qui est quasiment inobservable, et un peu kafkaïenne, qui est tentaculaire. Un peu peur. Anxiogène.
Regardez autour de vous. Regardez autour de vous.
Pas que ce soit anxiogène. Et d'autre part, qui est vu comme une conséquence effectivement de l'exil, et je dirais presque un peu de manière un peu freudienne, comme une façon de sublimer et d'assumer les fautes et les défauts et les défaillances qui sont liées. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on étudie? Alors, j'avais l'impression que vous nous suggériez qu'on était un peu comme Pénélope, la Matine, tricote quelque chose, là, comme ça, pour s'occuper en attendant le retour du gardien. Mais ça sert à quoi, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'étais quand même un peu embêté de ce... c'est effectivement un habitus, c'est fou comme ça. Mais quand même, là j'étais un peu interpellé parce qu'on dit le contraire. On dit au temps messianique, qu'est-ce qu'on fera? On fera que pour qu'on passera tout notre temps à étudier. Donc c'est pas un pis-aller qu'on fait aujourd'hui en attendant le retour du gardien. C'est au contraire le but même que l'on veut amener, c'est d'être Israël dans l'étude. Voilà, donc. Alors, j'étais interpellé par tout ça. Donc, c'est vrai que ma question était de se demander d'où vient cette position, notamment sur Israël et la loi. Est-ce que, parce que c'est vrai que dans les auteurs que vous citez, il y en a qui sont d'ailleurs une vision plus apologétique, comme vous-même, de ce rapport à la loi, même Nietzsche, c'est incroyable. Qui, justement, Israël, c'est l'exemple d'un peuple. Il n'y a pas de territoire, pas de nation, il s'occupe que de produire de la loi, de la développer. C'est ça être un peuple. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est pas le moins, hein, c'est un peu ça qu'il dit, non?
Ouais. Il y a un peu de ça.
C'est oui. Assez quand c'est même, mais c'est vacant. Hein. Bon. Oui, alors bien sûr, il y en a qui. Comment?
Il dit d'autres choses aussi, Nietzsche.
Oui, il dit d'autres choses.
Pas toujours des mains.
Alors donc c'est vrai qu'après, d'où vient cette vision pour vous a porté dans ces pages-là, ça m'a un petit peu intrigué, cette lecture. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné aussi, vous livrez un élément clé sur lequel je vais revenir. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu de temps, mais je suis obligé d'expliquer ma question parce que c'est un peu compliqué. Et vous y reviendrez plus tard en disant que finalement, c'est dans le rapport entre singularité, c'est dans ce rapport de singularité qu'a Israël que se trouve sa notion de souveraineté, son rapport à la loi, et bien des choses que vous expliquez. Donc, je vais revenir sur cette importance de la singularité d'Israël, qui n'est pas un peuple comme les autres. D'où ce problème de la politique juive, qui ne peut pas être comme les autres, a priori, puisqu'on n'a pas un peuple comme les autres. Il faut l'assumer en même temps. On va voir que c'est douloureux. C'est au prix d'un renoncement, peut-être d'un renoncement à la notion d'universel. Ça fait mal. Parfois, parce qu'on aimerait bien. Bon, là, je sais pas, on va voir. Je vais revenir un petit peu. Alors, comme je vous dis, j'étais aussi en train de faire le traité. J'ai un peu. J'étais un peu étonné que page 84 de votre livre. C'est pour vous dire que j'ai publié avec beaucoup d'intérêt votre ouvrage. Vous dites que le traité Nebila est central, pour reprendre le terme, mais finalement, il y a une sorte de mais en disant qu'il traite de problèmes halachiques. Ah, c'est un peu technique, des histoires sur la lecture de la Torah, etc. Et finalement, ça ne concerne pas notre sujet. Moi, je crois que ça concerne de près notre sujet. Je vais essayer, si vous permettez, d'en parler un petit peu. Alors, tout d'abord, il y a une Mishnah assez extraordinaire pour notre sujet, de ce qu'il en discute, qui est page 19 là, du traité. Je ne vais pas lire tout doucement, mais je ne voudrais pas rentrer dans les termes. Il y a une Mishnah qui m'a frappé quand justement je lisais votre livre. Qui dit, je prends directement le texte français, là, c'est pas possible. À partir de quel endroit doit-on lire la Megillah? Il y a plusieurs opinions qui sont citées, alors pour revenir un petit peu en arrière, c'est un peu compliqué, mais c'est facile.
C'est A ou B, meilleur.
Hein?
A ou B.
19a, mais là on va revenir à 18. À 18b. Attendez, je me souviens. Bon, je ne sais pas. Alors, il y a une opinion, excusez-moi, qui dit que il faut commencer la lecture de la Megillah à « Et ce fut au temps d'Achashverosh ». Et on dit, on reprend ses opinions en disant Quelle est la raison de celui qui avance cette opinion? C'est d'insister sur les puissances d'Ahasuérosh. J'allais dire traduit dans nos termes ici, c'est-à-dire on va insister sur cette problématique que vous avez. Je dirais comme ça, parallèlement, simplifiant, excusez-moi. On est dans l'axiomatique du gardien, sa diffraction entre Meller, Améler, etc. Donc la puissance d'Ahasuérosh, c'est ça. Il est manipulé tout en étant le roi, et là, vous avez dit, il est confus, mais en fait, il est manipulé aussi dans cette histoire. Il y a une autre opinion qui dit qu'il faut lire Ishiyahu, c'est-à-dire l'intervention de Mordechai, c'est-à-dire le retournement de situation qui s'amorce. Il y a une troisième opinion qui dit faut commencer, je ne sais plus dans quel terme, c'est à Aman, je ne sais plus exactement, qui insiste donc sur les puissances d'Aman. Là, ça fait très mal hein, quand on lit la Megillah. Puissance d'Aman, c'est la négativité complète d'Israël, c'est-à-dire, quand il parle d'Aman, ce qu'il dit sur les Juifs, c'est de toute façon, ils ont un peu plus ou moins abandonné leur Dieu, ils ne pratiquent pas vraiment ce qu'il faut, personne ne viendra les sauver. Des termes qu'on a retrouvés chez les Syriens. De toute façon, il ne faut pas que les Juifs pensent sur un miracle. Et en disant, de toute façon, le traité insiste, ils sont assimilés. Ils sont un peu bizarres, certes, mais finalement, ils sont un peu assimilés. Ils n'ont pas écouté leur prophète. Et le traité va dire, finalement, c'est quand Aman prend la décision d'acheter auprès d'Ahasuérosh la ville et les juifs, ça va les remuer plus que les prophètes qu'ils ont fini d'écouter plus leurs prophètes. Ça fait très mal hein, quand on lit la lecture avec Aman. Et la quatrième opinion, je me rappelle plus aussi à quel moment pour commencer la lecture, mais insiste sur une lecture en termes de miracle. Voilà. Et ça va aussi être assez fort dans... Alors, ce qui est marrant, si on peut dire, c'est que la Mishnah va pas trancher, va dire il faut lire tout de A à Z, et c'est ce que reprendra la halakha. Mais c'est banal, nous on est habitué à cette halakha, on sait bien qu'on va lire la Megillah de A à Z, donc on n'y fait plus attention. Qu'est-ce que veut dire cette opinion? Je ne crois pas qu'elle écarte les quatre autres, qu'elle tranche. Elle les subsume, elle va les reprendre toutes et en faire quelque chose qui est au-dessus de la somme des quatre opinions, mais quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que nous dit à ce moment-là la lecture? C'est... Il y a une somme d'événements, un enchaînement historique de choses qui vont se passer, qui sont toutes voulues par Hachem, dans laquelle il y a des signaux qui sont envoyés, des miracles, machin, et dans lequel il y a des retournements de situation spectaculaires auxquels on ne pouvait pas s'attendre, et qui vont, in fine, stimuler le retournement du peuple, sa tchouva ou sa prise d'initiative. Et donc, finalement, quelle est la lecture qui subsume l'ensemble des lectures possibles? C'est une lecture qui dit, c'est une lecture simple, puisque c'est Hachem qui est derrière tout ça. Mais ça n'exclut pas une lecture politique, puisqu'on voit que c'est le peuple qui va agir. Et donc, j'étais content, je me suis dit, ah, je suis pas complètement porte-à-faux avec ce que vous disiez. Mais, voilà, je voulais dire un peu ça.
Non, bien sûr, oui. Ah, d'accord. Non, je...
J'ai pas tout à fait fini.
Oui, je vous écoute.
On voit d'ailleurs qu'à Pessah, Hachem est visible et le peuple est passif. On voit qu'à Purim, Hachem est caché, mais c'est le peuple qui va agir. Je me suis beaucoup amusé à votre terme de... Vous avez dit des truc d'initiative populaire. Et ici, le peuple, c'est à Pessah, c'est la chaîne qui frappe. Ici, c'est le peuple qui va frapper. Curieux, hein, ce parallèle en France.
C'est pour ça qu'elles sont antinomiques.
Comment ?
C'est pour ça qu'elles sont antinomiques.
Alors, c'est pour ça qu'il y a eu cette levée de Pessah. Mais je ne crois pas que ce soit pour... Alors, bon, rapidement, simplement, d'autres petites considérations. La première Mishnah du traité, elle parle de la fixation de la fête de Pourim. C'est pas technique, c'est très important. On va tenir compte des gens qui étaient à Shushan, des gens qui étaient dans des villes fortifiées, des gens qui étaient dans des villages, des machins, pour essayer de créer un lien et une unité du peuple avec des gens qui sont, à la limite, qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais il fallait complètement reconstituer la notion de peuple. Visiblement, c'est ça la décision de Pourim aussi. Et donc, il y a des halakhot pour qu'on envoie des cadeaux, pour qu'on donne de la aux pauvres, pour qu'on fasse un michté. On voit bien, au-delà de savoir si on donne un cadeau à son voisin, mais c'est pour créer une solidarité. Ce qu'on trouve d'ailleurs juste à l'Exode aussi, à la sortie d'Égypte, hein, chacun emprunte à son voisin pour créer une solidarité. Et donc là, on sent que la préoccupation, la première chose, la Mishnah, c'est qu'il faut absolument recréer une notion de peuple. Une notion, hein, c'est vague, hein, mais visiblement, on voit que c'est la possibilité d'un peuple en exil dont il s'agit ici. Avec des choses très simples. L'autorité, son seul souci, c'est de créer du lien entre les gens, et le peuple, il se définit d'une manière très sobre, il n'y a pas besoin d'institution politique. C'est à la fois, c'est le niveau presque zéro du peuple, il n'y a pas d'institution, il n'y a rien, et c'est le niveau le plus élevé, parce que c'est un peuple solidaire. Et on réunit autour du projet, bon, excusez-moi, j'avance. Après, donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de halakhot sur les problèmes de lecture du texte de la Torah. Ils sont tous copiés sur la façon d'écrire la Megillah, de la lire, etc. Donc c'est repris. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On n'est pas dans le sujet de la Megillah. Ben si, c'est central. C'est-à-dire que ce peuple qu'on essaie de constituer, il a un objet central, c'est de produire de la Torah, la lire, la rendre publique, ça va étudier, là vous l'avez remarqué vous-même, avec le Kibloum et Kibloum, c'est bien entendu l'annonce de la Torah orale. Et donc, toutes ces halakhot-là nous montrent que ce qu'on veut, c'est un peuple porteur d'une loi vivante. Et donc, c'est pas simplement on tricote en attendant le retour. Mais c'est, on fait tout ce qu'on peut pour que se développe une loi orale afin que la loi du Sinaï s'applique dans ce monde ici-bas, dans les conditions difficiles de l'exil. Certes, c'est une autre question, mais c'est ça qu'on vise. Donc le développement tentaculaire de la loi, c'est en fait aussi tentaculaire que la vie l'est elle-même. Elle se développe par tout ce qu'on peut. Donc, les membres, les 613 mitzvot, il y a celle des organes du corps, il y a celle du cycle de la vie. Les 613, c'est 248. Voilà. Donc, il y a la Torah orale comme application de la Torah du Sinaï. Ce n'est pas une question d'ajout interminable qu'il faut se casser la tête pour comprendre, c'est vraiment le mouvement d'être. Alors, vous avez cité Menachot, 29b, bien sûr, sur le passage à Rabbi Akiva. Au passage, je vous remercie, j'ai compris un truc, je ne l'ai jamais compris depuis le début, qui était, Hachem dit à Moshe, retourne-toi, tu vas voir, Rabbi Akiva, tout ce qu'il a pris, c'est, regarde ce qu'il fait, pourquoi il lui dit retourne-toi, ça n'a pas de sens. Et je me suis rappelé, c'est comme dans cette histoire de Megillah, il faut se retourner la situation pour la voir. Ça m'a donné une rachat sur ce minéral. Bref, je suis très long, je termine là-dessus. Donc, ce que je voulais dire, voilà, c'est que moi, au vu de Tzialarot, cette place qu'elle donne au peuple, à la Torah, à la production de la loi, une loi vivante, c'est difficile d'admettre que la lecture politique admise, on pourrait dire par hasard, dans ce qu'on a dit au début, dans cette Mishnah, c'est difficile de garder simplement la lecture d'un peuple qui est dominé, qui cherche un protecteur pour sa survie, en attente de, etc. C'est difficile. Est-ce qu'on peut prendre pour autant la lecture d'un peuple souverain sur sa loi, dominateur, comme dirait De Gaulle, mais qui est... La seule réponse qu'on a, quelque chose, c'est de dire que c'est un peuple singulier. Alors oui, à ce moment-là, on comprend. Si on dit que c'est un peuple singulier, effectivement, il a un certain nombre il y a des choses qui... par exemple, la notion d'universel, c'est vrai, il y a des choses qu'il faut sacrifier. Et c'est dans sa singularité qu'on trouve à la fois sa figure politique et... sa figure sainte.
Merci. En fait, vous avez raison. C'est peut-être moi qui suis, vous avez dit, je suis peut-être en porte-à-faux. C'est moi qui suis peut-être en porte-à-faux, mais je le suis sûrement, mais je l'assume. C'est-à-dire, je caresse un peu, un rebrousse-poil. C'est fait exprès. Et c'est fait exprès pour rendre saillant quelque chose qui n'est pas assez vu. C'est-à-dire que, quand je dis le traité de Megillah traite de choses techniques, le mot technique n'est pas un mot déshonorant. Je n'ai pas dit que c'était sans importance. J'ai dit que souvent, c'est sans importance relativement au sujet que je vais traiter. Hein? Je ne dis pas que c'est sans importance. C'est sans importance au regard de la démonstration que je me propose de conduire dans l'ouvrage. Et là, effectivement, il y a une torsion, qui est une torsion assumée, et qui consiste à accentuer, parfois à ponctionner, des choses pour rendre visible quelque chose qui, je pense, malheureusement, n'est pas assez visible. Alors, notamment, la question de la singularité du cas, elle est jamais en cause. C'est la première phrase du livre. La première phrase du livre, c'est pourquoi ça dure? Qu'est-ce que c'est que durer? Alors que les autres entités politiques sont prises dans un cycle de naissance, de vie, de déclin et de disparition. Donc c'est pas du tout la singularité qui est en cause. C'est qu'est-ce qui me frappe dans cette singularité, qu'est-ce qui est politiquement frappant dans cette singularité. Et du coup, la manière dont c'est perçu de l'extérieur, mais aussi la manière dont c'est interrogé de l'intérieur. La manière dont les Juifs se pensent eux-mêmes singulier au regard de cette durabilité. Je dis bien au regard de cette durabilité. Alors, naturellement, ce n'est pas parce que le traité Megillah comporte énormément de choses techniques que je ne les ai pas regardées. Mais j'ai essayé de mettre à profit l'ensemble qui dépasse très largement le traité Megillah. Mais j'y suis souvent revenu, et ce qui est très frappant, et c'est juste ce que vous dites, la question de savoir où commencer à lire le rouleau d'Esther est tellement vrai, est tellement fort, que le livre n'a pas toujours été appelé Megillat Esther. Il y a des livres qui s'appellent Megillat Achashverosh. Donc ça, c'est vraiment la justification. Une très bonne justification, c'est-à-dire que ceux qui ont baptisé ce texte-là Megillat Achashverosh, ils voulaient assurément qu'on commence par lire Vayehi Bimei Achashverosh. Mais il y a aussi des Megillat Mordechai. Voilà. Alors il n'y a pas de Megillat. Il y a des Maser et Amalek, il n'y a pas de Megillat Amal. Donc, et vous avez raison que ce n'est pas politiquement neutre que, ça, que c'est vrai. J'aurais pu exploiter probablement tout un ensemble de choses relativement à la politique, mais alors on en vient, on en vient à votre autre question, parce que je crois qu'en fait ce qui est important dans la lecture d'Esther et telle qu'on l'a lue, personne n'a commencé à lire Esther un peu plus loin. Tout le monde l'a lu de sa première, du premier mot au dernier. Mais c'est quel genre de lecture on en a fait ? On a lu, et ça c'est la fête populaire le montre mieux que les commentaires savants qui ont été faits dessus, c'est que c'est lu comme un compte à rebours. C'est-à-dire que c'est l'implication du lecteur dans le texte qui fait la singularité, qui fait partie de la singularité de l'objet. Je veux dire, il existe un livre d'Esther grec qui est différent de cette version hébraïque, mais qu'un chrétien, alors c'est pas juste qu'il est différent parce que son contenu est différent, son contenu est par certains côtés différent, et cette différence importe énormément. Mais c'est aussi le genre d'engagement dans la lecture qui n'est pas le même. C'est-à-dire que quand la Megillat Esther est lue publiquement, elle est lue publiquement, comme on dit, comme si on n'en connaissait pas la fin. En fait, on la lit dans son actualité. Lire comme si on n'en connaissait pas la fin, c'est la lire dans son actualité. Donc en maintenant la tension de savoir si effectivement le dénouement va être fatal ou heureux. Alors, quand vous dites justement, vous avez utilisé le terme, ça fait très mal, quand on commence par lire par Amman, ça fait très mal, c'est ça le point. Ça fait très mal. Et donc, pourquoi ça fait très mal ? Et pourquoi ça doit faire très mal ? Parce que l'exil, c'est pas la question de est-ce qu'on tricote en exil ou qu'est-ce qu'on fait en exil. C'est que l'exil est un problème. Jamais, jamais l'exil ne peut être traité autrement que comme un problème qui doit trouver son terme. Ce n'est pas une situation idéale, c'est une situation subie. Donc, on peut, vouloir atténuer ce simple fait, mais pour les rabbins, pour les commentateurs, ça procède d'une punition, d'un châtiment, et il y a toutes sortes d'explications. Pourquoi le temple a été détruit ? On connaît. Il n'y a pas tant de réponses que ça, mais il y en a un certain nombre. Donc voilà, quelle est la raison de l'exil ? Et l'exil, c'est toujours un entretemps. C'est pas quelque chose. Donc c'est effectivement quelque chose qui doit être rempli. Qu'est-ce que c'est un entretemps ? Un entretemps, c'est un temps entre deux autres temps. C'est quelque chose qui doit être rempli. Alors justement, il n'est pas rempli par du tricotage, mais comme l'exil est objet d'interrogation et que cette interrogation fait toujours surgir la question de la relation avec Dieu, et elle fait toujours surgir la question de la défaillance, elle fait surgir la question de la défaillance du peuple, l'activité des Juifs en exil a pris la coloration du moyen d'un rétablissement de cette relation dans son idéalité afin que l'exil prenne fin. Et ce rétablissement de la situation dans son idéalité, c'est ce qu'on appelle l'étude, et c'est ce qui induit l'énergie continue sans interruption, d'étude du texte. Alors, naturellement, on peut ne pas le voir comme ça, mais je pense que ce n'est pas une... On peut voir d'autres choses, mais il me semble que la description n'est pas fausse, et donc ce n'est pas du tout du tricotage, c'est la seule chose qui vaille, c'est la seule chose qui importe. Mais pourquoi elle importe? Elle importe pas pour que le... Elle n'importe pas simplement vu sous son... sa face de la loi et de la halakha pour que le peuple confortablement s'installe en exil. Il n'y a pas d'installation confortable en exil. Il n'y a qu'un effort tendu vers son abolition. Et cet effort tendu vers son abolition induit ça. C'est-à-dire induit un énorme travail de clarification de la défaillance dans la relation entre le souverain et son peuple. Alors, la question que vous... Quand vous dites est saint, être saint, quand vous parlez du miracle, en fait, le miracle, le miracle dans le livre d'Esther, c'est le fait que les Juifs survivent. C'est ça le miracle. Le miracle moderne, on pourrait dire, parce que dans le livre d'Esther, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus d'intervention directe de Dieu. Les rabbins le voient bien, puisqu'ils commentent à partir d'une situation d'exil. Donc certes, Dieu les accompagne, mais Dieu n'intervient plus comme il avait fait pour nos pères. Il n'ouvre plus la mer, il ne fait plus des choses comme ça. Il n'y a plus de prophète non plus pour dire l'avenir. Donc en réalité, le miracle, si on regarde ce que veut dire, d'abord le mot est tardif. Nes, c'est très tardif. C'est dans la littérature rabbinique et c'est tardif. C'est-à-dire, en réalité, miracle veut dire survie des Juifs. Et tout ce qu'on pense comme étant un miracle dans les Écritures, en général, se résume à ça. C'est l'attention, danger, intervention en vue de la survie. Cet ensemble-là recevra tardivement le nom de miracle. Alors, qu'est-ce qui est saint là-dedans ou qu'est-ce qui n'est pas saint? C'est très difficile de le dire. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a rien qui est saint. Ou c'est la même chose de dire que tout est saint. C'est-à-dire, entre ce qui est saint et qui ne l'est pas relativement à la politique, il n'y a pas de distinction. À travers chaque événement où les Juifs sont sauvés, ils confirment aux autres et se confirment à eux-mêmes que la promesse n'est pas trahie. Ils confirment aux autres et confient pour eux-mêmes que la promesse est toujours valide. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que c'est saint ou on peut ne pas dire que c'est saint, ça n'a aucune importance. C'est un fait empirique, je dirais. C'est-à-dire, il faut ramener la politique dans le monde de la même manière que la Torah est bien dans le monde. La politique juive aussi, elle est dans le monde. Et elle est, de manière ultime, l'attestation que ça continue.
C'est pas du tout mon plan. Il se trouve que j'ai l'impression d'avoir un truc à dire sur l'échange qui vient d'avoir lieu. Je vais essayer de le dire très rapidement. Il me semble que ce sur quoi la discussion a porté bien que ça n'ait pas été évident à chaque instant de cette discussion, c'est au fond sur le problème de savoir qu'est-ce qu'il faut faire depuis la tradition juive d'une célébration qui a lieu dans notre monde et qui est la célébration du politique. Moi, c'est comme ça que j'entends le problème. Et il y a dans notre monde quelque chose de bien installé qui est l'idée que le politique, ça nomme un accomplissement de l'humain. C'est un certain régime de l'action et dans sa précédente intervention d'Anne Trom a insisté là-dessus hein, qu'il y a cette idée d'une action qui est une initiative et qui est une tension en même temps vers un achèvement. Donc ce mode de l'action qui est une espèce d'exploration, une initiative et qui cherche son but c'est célébré dans le monde qui est le nôtre. Il y a une célébration du politique. Et chaque fois que la tradition juive est face à comme ça quelque chose que notre monde célèbre, c'est-à-dire où notre monde voit un accomplissement humain, on hésite, soit on veut le récupérer, dire on a ça aussi dans le judaïsme. Le judaïsme aussi fait avec ça, connaît ça. On va essayer de montrer que les maîtres, à tel ou tel moment, ont vu ce politique et en ont fait grand cas. Ou alors, on peut dire non, chez nous, c'est pas ça qui est l'accomplissement humain. Et donc il y a une hésitation. Il y a eu un débat sur l'histoire aussi, parce que il y a dans le même monde, il y a une tendance à dire la grandeur, le fait même de l'humain, l'extraordinaire de l'humain, c'est son historicité. Et donc après débat, est-ce que le peuple juif est un peuple qui a une histoire ou qui n'en a pas ? Soit on va dire, mais oui, le peuple juif lui aussi, il connaît ça, l'historicité, il le célèbre, il en fait l'histoire. Ou au contraire, on va dire non, chez nous, c'est pas ça, c'est autrement. On va pas valoriser l'historicité. On a le problème avec l'esthétique aussi. Bon. Là où on n'a pas ce problème, vraiment, c'est avec la science. Notre monde célèbre la science et les juifs disent tout, nous aussi. Anthony est peut-être aussi en accord. Donc voilà, je voulais repérer ce nerf de la discussion et il me semble, parce que c'était aussi dans l'intervention de Nicolas, que. On voit bien que cette célébration du politique, ça vise un autre régime de l'action que l'action de l'étude observance, pour reprendre mon propre langage. L'action de l'étude observance, c'est une action de quelqu'un qui est d'abord remué, réveillé par l'infini, le commandement de la loi, et en plus qui est dans le scrupule permanent de ne pas bien faire, de ne pas faire ce qui est commandé. Donc après, c'est une subjectivité provoqué, traumatisé, si je prends l'exemple de la scène, par le dérangement maximum, et en même temps, c'est un régime de l'action où ce qui va se passer, c'est qu'on va être sans arrêt dans l'inquiétude de ne pas faire ce qu'il faut, ou dans l'inquiétude de ne pas donner assez, etc. Et par rapport à ça, le modèle du politique, qui trouve son expression maximale, je crois, chez Anna Arendt, il me semble que tout le monde convient plus ou moins de ça, c'est un tout autre régime. C'est un régime où on cherche la performance. Dans l'interaction avec les autres, si on célèbre l'action de la première manière, il ne s'ennuie pas quand il célèbre de la deuxième manière et réciproquement. Donc je voulais marquer que ce n'était pas la même chose. Je ne veux pas conclure, mais je voulais repérer juste que dans votre débat sort ce différent. Vous utilisez le mot de l'argent.
Mais, Jean-Michel, ce qui a été souvent dit des Juifs, c'est que la politique, en quelque sorte, que ce registre d'action n'était pas le leur. Et ce que j'essaye de faire, c'est de repérer qu'il y a quelque chose, et bien qu'ils ne connaissent même pas le mot politique, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la politique, mais il faut pouvoir le repérer. Et ce qui ne veut pas dire qu'ils rejoignent la politique telle que on le célèbre dans notre monde.
Non, mais j'ai entendu, c'est très important, j'espère pouvoir lire.
J'entends bien ce que vous dites, mais il me semble que l'interrogation est beaucoup plus dramatique que vous me formulez. Je voudrais me référer à Yosef Haïm Yerushalmi et à son travail sur lequel vous vous fondez de façon tout à fait importante, et je résumerai, si vous voulez, son travail en disant qu'il a cherché à réfléchir à une historicité juive.
Oui.
Mais parallèlement à cette réflexion sur l'histoire juive, et en particulier ce qui a fait naître cette interrogation, c'est justement une interrogation originale et importante, et un doute, je dirais, c'est là qu'on va vers le tragique, à partir des massacres qui ont eu lieu. Et il y a deux massacres, évidemment, il y a la Shoah, et puis il a repensé justement la question de l'inquisition espagnole. Donc c'est à partir de ce questionnement-là qu'il y a un doute chez les intellectuels en disant, et chez les juifs, est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur l'interprétation de notre histoire juive, et est-ce qu'on n'a pas dans notre tradition des éléments qui nous permettent de repenser l'histoire autrement que ce qu'on nous a infusé, et est-ce qu'on n'a pas les moyens de s'en sortir, et à ce moment-là on trouve effectivement le livre d'Esther, parce que dans le livre d'Esther on a échappé à l'extermination. Et donc pourquoi n'a-t-on pas échappé à l'extermination? Voilà ma question.
Ah oui, ça c'est une question. Je ne sais pas par quel bout prendre votre question. Non, on peut dire d'une certaine manière, mais ça c'est j'essaye de le montrer que la Shoah n'a pas tout à fait, n'a pas du tout la même nature que l'expulsion. Elle n'en a pas du tout la même nature, parce que l'expulsion est intégrée dans les possibilités, dans le commentaire, l'expulsion est une possibilité qui est toujours envisagée, et c'est pas seulement l'expulsion qui est envisagée comme une possibilité, c'est le fait de devoir partir. Il y a encore une...
Oui, attendez, juste une petite chose. Parce qu'il me semble que dans l'interprétation de Yerushalmi, il explique justement que, en partant de ce que vous avez essayé de nous expliquer, autre parenthèse, c'est la question de la traduction du politique. Vous avez dit que ça n'existait pas, mais pourquoi ne pas considérer que le Malchut, c'est une traduction de juive de la question du politique? Et vous l'avez d'ailleurs cité en disant la loi de l'État, la loi du pays, c'est la loi. Bon, donc ça je reviens. Alors, l'explication que donne Yerushalmi par rapport au problème de la Tobidou, enfin au parallèle entre l'expulsion et la Shoah, c'est que, à l'époque de l'inquisition espagnole, enfin cette époque-là, il y avait une croyance, il y avait une collision entre le judaïsme et la royauté, et qu'on croyait que la royauté, les juifs ont traditionnellement, surtout les juifs séparables, mais pas seulement, ont toujours cru qu'il y avait une protection qui était assurée par la dimension de la malroute, en fonction précisément de notre tradition, et là ils ont été trompés, parce que précisément c'est le contraire.
Oui, ils ont été trahis, ils ont été trompés, et ils n'ont pas été exterminés. Et là, ce qui fait que d'une certaine manière et très paradoxalement, si on prend la littérature, on regarde la littérature post-expulsion d'Espagne, c'est pas du tout une littérature qui met en cause l'axiomatique du gardien. Pas du tout. Peut-être même qu'elle le renforce. Alors elle peut le renforcer pour des raisons d'optique. On a l'impression qu'elle le renforce parce qu'on s'exprime plus, on écrit plus à l'époque. Et les questions politiques sont objets d'écrit. Donc ça peut être un biais de perspective. Mais jamais l'expulsion d'Espagne n'a invalidé la construction de base. Donc l'axiomatique du gardien. La plupart des juifs expulsés d'Espagne ont retrouvé un protecteur ailleurs, en République hollandaise, dans l'Empire ottoman, etc., en Italie. Maintenant, avec la Shoah se pose un autre problème, c'est que là, c'est comme si... Alors, vous savez, en fait, ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est que et c'est connu de beaucoup, c'est que les communautés, quand elles étaient menacées et pour finir en réchappaient, commémoraient leur sauvetage par l'écriture d'une Megillah qui était calquée stylistiquement sur le livre d'Esther. Donc en réalité, toute crise était en quelque sorte perçue, interprétée, passée au crible du livre d'Esther. Ce qui montre que naturellement c'est bien ce livre-là qu'ils avaient en tête dès lors qu'ils étaient confrontés à un événement dont les traits leur rappelaient ce qu'ils avaient lu dans le livre d'Esther. C'est ce qu'on appelle des Purim Sheni, des Purim secondaires. D'ailleurs, c'est pour ça que plus tard, on a appelé la Megillat Esther, on l'a appelé le Purim de Shushan. Comme si pour finir, la première occurrence n'était qu'une occurrence parmi d'autres dans la série des Purim, et qu'on pouvait en quelque sorte lire la liste des Purim en partant, alors pour le coup, du début à la fin, ou en partant de la fin vers le début, ou la prendre quelque part au milieu. Mais le problème de la Shoah, c'est que, en fait, tout ce que la Megillah raconte et tous les commentaires qui ont été faits sur la Megillah étaient d'une certaine manière, avaient une fonction de réassurance. Jamais le souverain, puisque dans la Megillat Esther, la décision est prise, tout est prêt en quelque sorte, et puis intervient le retournement soudain. Celui qui menaçait était menacé. Celui qui voulait pendre est pendu. Donc c'est pour ça que c'est un carnaval d'une certaine manière. C'est un retournement ironique de la situation. Ceux qui voulaient massacrer sont massacrés, etc., etc. Et là, on se trouve dans une situation avec la Shoah, et ça c'est l'explication de... Alors, pour revenir à Yerushalmi, c'est que, en réalité, la possibilité que le roi prenne l'initiative et exécute la décision de tuer le peuple était impossible. Et c'était quelque chose qui était pour les juifs conceptuellement inaccessible. Et donc du coup, naturellement, il y a eu, pourrait-on dire, un défaut de méfiance ou un défaut d'analyse, comme si en réalité leur analyse politique de la situation... qu'ils ont généralement calqué sur le livre d'Esther était tout à coup une erreur. Ou on peut dire en d'autres mots, comme si cette promesse attestée chaque fois par la survie des Juifs, tout à coup, cette fois-là ne fonctionne plus. Alors, on peut dire que la Shoah est un Purim raté. Il y a eu un Purim d'Hitler, mais c'est en 1942. Les Juifs du Maroc ont fait un Purim d'Hitler parce qu'ils ont commémoré l'échec du débarquement des Allemands à Casablanca. C'est un Purim gelé, on me l'a donné là à Jérusalem, chez les Marocains. Ils ont encore ce qu'ils appellent le Purim d'Hitler. Mais il n'y a pas de Purim de la Shoah. Mais naturellement, il n'y a pas, parce que là, ce sont les catégories traditionnelles qui ont été prises en quelque sorte en défaut. C'est-à-dire, ce qui était disponible pour comprendre la situation ne suffit pas. Et naturellement, ça a créé une crise énorme, une crise, parce que naturellement, dès lors que les catégories dont se soutenait la politique sont discréditées d'une certaine manière par la réalité empirique, eh bien, il y a un problème. Puisque le miracle, c'est la survie, et pourquoi il n'y en a pas eu? C'était la mort. Alors, comment le monde juif s'est débrouillé avec ça? Il est entré en crise. Il est entré dans une crise profonde, y compris le monde orthodoxe, qui a essayé de fermer les yeux souvent en trouvant des explications, dont je ne pense pas qu'ils étaient très convaincus eux-mêmes. Et je pense aussi qu'il n'est pas exclu que cette crise, qui est une crise européenne, soit si forte que, en fait, c'est la fin, en quelque sorte, des Juifs en Europe. C'est-à-dire qu'on se relèvera. Moi, c'est ce que je pense de plus en plus, c'est que on s'en relèvera pas, probablement. Et que, voilà, c'est un peu comme, alors là on peut faire le parallélisme avec l'expulsion des Juifs d'Espagne. Il n'y a plus eu de Juifs en Espagne pendant 5 siècles. Je pense qu'il n'y aura plus de Juifs en Europe. D'ailleurs, elle s'évite de Juifs depuis maintenant. Si on prend la chose depuis la Seconde Guerre mondiale, par à coup, l'Europe se vide du reste des Juifs, pourrait le dire. Et probablement que, voilà, alors, la Megillat Esther, dans ce qu'elle promet, naturellement, elle est, on pourrait dire, discréditée. Alors, comment se débrouiller avec ce discrédit, je ne sais pas du tout. Mais ce qui n'est pas discrédité ou ce qui reste actuel, c'est la recherche d'une solution qui soit adéquate à l'axiomatique du gardien. L'axiomatique du gardien n'est pas discréditée. Dans le livre d'Esther, c'est là qu'on le voit à l'œuvre de la manière la plus, disons, la plus claire, la plus précise, la plus élaborée. Mais l'axiomatique du gardien continue de fonctionner. Et la thèse que je défends dans le livre, c'est que dès lors que l'instance, que le roi de chair et de sang est en quelque sorte discrédité en devenant un roi criminel, ce que la Megillah promettait qu'il ne sera jamais, le gardien a dû être, le gardien protecteur a dû être projeté ailleurs. Donc disons, dans la configuration actuelle, c'est l'État d'Israël qui prend la figure du roi de chair et de sang. Ce qui, naturellement, est une situation d'abord tout à fait nouvelle, et puis une situation aussi qui est capable de réintégrer l'État d'Israël, non pas dans une histoire politique messianique, mais dans une histoire politique, qui est celle de l'autoconservation du peuple juif dans l'histoire, en faisant en quelque sorte une figure singulière, mais quand même encore une figure qui relève, disons, de la même logique.
Monsieur Rudy,
je vais m'exprimer avec la brutalité habituelle des ingénieurs pour dire que j'avais une autre attente. Que les propos tout à fait impressionnants, savants et passionnants, j'ai entendu. Associer politique et judaïsme, ça fait penser au roi. Ça a d'ailleurs été dit par monsieur. Or, les rois d'Israël, du Juda, ont pratiquement tous été des catastrophes. C'est-à-dire que le pouvoir politique, quand il exerce par des juifs sur les juifs, c'est un désastre. C'est l'idolâtrie, l'égalité interne, y compris celui de l'être comme David Salomon, ou Ézéchias ou Joas. David n'a pas pu construire le temple parce qu'il avait les mains pleines de sang et une existence pas tellement édifiante. Et quant à Salomon, le sage des sages, il n'a pas été fichu de garder son empire. C'est-à-dire qu'il a tellement rançonné et exercé, des connivences familiales dans la façon dont il a exercé le pouvoir, que son royaume s'est coupé en deux. Conclusion, le jugement de fait de la Bible sur la politique est massivement négatif. Deuxième chose, toute la Bible est un drame politique entre deux États majestueux, l'Égypte et Babel, qui reproduisent au niveau politique, proprement politique, l'affrontement entre Caïn et Abel. C'est que l'Égypte est le pays de la sédentarité parfaite et Babel est un pays de nomadisme. puisqu'on bouge tout le temps, la capitale change, on manque de tout partout, c'est le pays de l'échange. Les Romains disaient que la divinité tutélaire de Babel, c'est Mercouris, Mercure, le dieu de l'échange, le dieu du voyage. Eh bien, toute la Bible, c'est l'affrontement de l'Égypte et de Babel, avec bien entendu Israël à la charnière. Puisque j'ai pu développer une définition du judaïsme entièrement fondée sur le fait que le messianisme, c'est la réconciliation des sédentaires et des nomades, qui sont affrontés toujours et partout, depuis la plus petite entreprise jusqu'au niveau macro-politique. Alors, je me dis, politique, ça vient de polis, la cité, ce qui évoque des murailles, ce qui évoque la sédentarité, ce qui évoque Caïn et l'Égypte, qui inévitablement, comme les rois d'Israël l'ont montré, dérive vers la tyrannie, l'arbitraire, le népotisme, tout ce qui fait que la politique, quand elle est incarnée par une institution cernée, est en fait impossible. Et la Megillat Esther, je l'ai toujours comprise comme l'au-delà du politique. Assuérus n'est pas un roi, c'est un usurpateur. C'est un général de Nabucodonosor qui a réussi à prendre le pouvoir, d'où son insistance à exhiber Vashti, pour démontrer que sa puissance sur son institution est le reflet de sa puissance sur sa femme, qui elle-même était une aristocrate authentique qui descendait, elle, de Nabucodonosor. Donc, Assuérus est profondément incertain sur sa légitimité. Et dans ce cas-là, évidemment, les Juifs sont une épine dans sa chair. Parce que eux, les légitimités, ils savent qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a même qu'une seule, dont ils sont les porteurs énigmatiques. Et moi, j'ai toujours compris la Megillat Esther comme le remède aux défauts de la monarchie. Il n'y a plus de monarchie. Assuérus va épouser Esther. C'est pas incroyable, un roi qui épouse une juive. Et de tout cela va résulter la reconstruction du temple. C'est-à-dire que l'aboutissement de la fin des monarchies, c'est le retour de la présence de Dieu sur terre. Voilà comme ça, c'est comme ça que je l'ai compris. Cela étant, ça ne retire rien au caractère absolument passionnant des débats qu'on a entendus, mais qui se situe après l'effondrement définitif des monarchies.
Non, c'est juste, naturellement, c'est le grand problème, c'est que le récit tel qu'il est consigné dans les écritures des ancêtres de la sous-Égypte, de l'entrée dans de la monarchie, etc., en fait, va servir de matière première, quelque chose va servir à la libération d'autre chose. Servir de matière première à la libération d'autre chose. Cette autre chose est un produit qu'on le voit même déjà à l'intérieur même, dans Ezra, etc. Et on soupçonne énormément la rédaction, l'historien, les éléments, disons, de proto-exil qu'on peut lire le long du récit, non pas seulement à la fin, ont été rajoutés ou ont été probablement corrigés ou repris par des scribes qui, Abraham est expliqué, où on lui dit l'Erlecha Me'artzecha, etc., etc. Bon, alors là, on voit la figure de l'exil, mais. Je veux dire, c'est une matière, naturellement, sur laquelle qui est probablement réécrite, etc., et sur laquelle les Juifs, après, ont édifié quelque chose d'autre. Mais dans cette autre chose, la question du roi, n'est plus tout à fait le problème que vous soulevez, qui est très juste par ailleurs. C'est plus du tout le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de roi. Le problème, c'est pas du tout le jugement sur le roi. Le problème, c'est qu'il n'y en a plus. Et que la royauté, dès le début, c'est pas que les rois ont été défaillants, c'est que la royauté en tant que telle est décrite comme un pis-aller. Le peuple demande un roi. Il demande un roi pour mener sa guerre. De nouveau, la politique surgit ici par la politique étrangère, on pourrait dire. C'est le danger qui fait que Samuel s'adresse à Dieu lorsqu'il me demande un roi et que le prophète dit « C'est moi le roi, mais donne-leur un roi. » Donc il y a là, dès le départ, un double mouvement dans lequel, au moment où Israël reçoit un roi, Dieu dit que c'est lui qui est le roi. Donc le dédoublement qu'on a vu, qui est tardif dans le livre d'Esther, dans le commentaire rabbinique du livre d'Esther, le mouvement de dédoublement est en quelque sorte, trouve déjà des premières élaborations au moment même de la fondation de la royauté, où Dieu ponctionne une partie de sa force et de sa puissance pour la donner au roi, pour la donner au peuple d'une certaine manière, qui va partir en guerre, mais où Dieu dit, néanmoins, c'est moi qui suis leur roi. Donc la naissance de la royauté est nimbée d'un espèce de halo de déception. Et donc elle est déjà une figure de l'idolâtrie. Pourquoi est-ce qu'elle a une figure de l'idolâtrie? Parce que pour qu'il n'y ait pas d'idolâtrie, il faut qu'il y ait confiance absolue en Dieu. Or, si le peuple se tourne vers le prophète pour demander un roi, c'est que la confiance en Dieu n'est plus entière. Puisqu'il faut bien un roi pour mener sa guerre. Or, juste là, c'est bien le roi, c'est bien Dieu qui mène les guerres d'Israël, directement. Voilà. Donc, on a déjà une histoire sur laquelle élaborer des choses, mais cette histoire déjà discrédite fortement la figure du roi fut-il, le roi David, ou fut-il un bon roi.
Si je peux ajouter un mot, j'ai une vision du cycle des fêtes juives qui commence par Pessah, où c'est Dieu qui fait tout, et pour lui, c'est les hommes qui font tout.
Oui.
À ce titre-là, il y a une sorte de parfum messianique très fort dans Pourim. C'est que les hommes se débrouillent avec les péripéties douteuses que vous avez merveilleusement analysées, mais c'est quand même eux qui se débrouillent. Et c'est ça le gouvernement idéal. Il me semble que le gouvernement le plus réussi de toute la Bible, c'est celui de Josué. C'était pas un roi, c'était un juge. Les tribus avaient chacune leur législation, leur petite habitude, leur petite querelle, mais il n'y a pas eu de conflit à l'intérieur d'Israël sous Josué. C'était la Suisse, un truc dans lequel le pouvoir est dans le village. Il y avait une vague confédération, mais personne ne connaît le président de la confédération helvétique. Ça, c'est un bon gouvernement. Chacun. Ouais, il n'a pas fait tout à fait les choses terribles que Dieu avait annoncées.
Je pourrais juste ajouter quelque chose sur ce que vous venez de dire, et vous avez dit, c'est qu'effectivement, c'est le paradoxe, si on réfléchit au fondement de la monarchie dans la Torah, on a en même temps la déconstruction de la monarchie, parce que finalement, qui est le premier roi qui d'ailleurs va être déchu, c'est Saül qui devient roi parce qu'il cherche un contre d'aînesse. Donc, on se croit dans Rabelais quand on lit ce passage dans la Bible. Et donc, il y a vraiment une question, en effet, sur la marche ensuite avec David, on retrouve aussi ce questionnement. Puisque ça passe de Saül à David, et David lui-même, il y a aussi un questionnement sur sa légitimité. Moi, j'ai une autre question personnelle, mais je ne sais pas si j'ai le droit de la poser. Ma question personnelle, je prends un peu, si vous voulez, à l'extrémité de votre analyse. Et j'essaie de voir en quoi elle peut éclairer, si vous voulez, un certain nombre de questions. Et comme on a la chance de vous avoir, je me permets de poser une question très personnelle, qui est la suivante. En fait, dans l'histoire de Megillat Esther, c'est une femme qui sauve. Et paradoxalement, cette femme qui sauve, d'ailleurs, à travers une histoire quand même très scabreuse, dont on peut d'ailleurs penser que les Ninéïs sont une reprise, on voit que pour la première fois dans l'histoire, moi je ne donne pas d'autres exemples, dans l'histoire juive, l'homme, au sens masculin, est rétabli dans ses droits et dans son pouvoir. C'est la mort des rails, grâce à Esther, devient quelqu'un devant qui tout le monde s'incline, ce qui n'existe pas en temps d'exil. Et donc ça, c'est une question pour moi, et c'est quand même une interrogation. Pourquoi ça passe par Esther? Pourquoi ça passe par cet engagement comme extrêmement risqué du féminin dans l'histoire pour arriver à restaurer finalement une souveraineté de l'homme juif? Voilà la question qui est très générale. Mais ce n'est pas forcément, enfin, je veux dire, par le sujet qui vous intéresse.
Les commentaires académiques ne glorifient pas outre mesure la figure d'Esther. Parce qu'Esther, elle est réticente. Mardochée lui dit, ne crois pas que si tu ne vas pas, t'en échapperas.
Mais elle est violée, surtout, ça commence par un viol.
Et donc, de la même manière que on ne trouve pas, sous la haute autorité, on ne trouve pas, quasi pas de traces de Moïse dans la Gada de Pessah. On ne n'insiste pas particulièrement, et c'est pour ça qu'il y a une hésitation sur la manière de nommer le livre. Est-ce que, pour finir, la Megillah, c'est la Megillah de Achashverosh? Parce qu'en fait, la question qui se pose, moi, ma lecture, tend à accentuer le fait que ce traité chronique aurait pu s'appeler à juste titre Rouleau d'Assuérus, parce que c'est autour de lui que tout se passe. Voilà, d'autres, alors elle s'est appelée Megillat Esther, et d'autres s'est appelée Megillat Mordechai. Pourquoi est-ce que c'est une figure du féminin?
C'est elle qui a posé.
C'est important sur ce sujet.
C'est elle qui a posé les ruines.
Non, mais vous donnez dans votre livre une piste aussi pour expliquer ça. Pourrait être une piste, c'est que Esther, c'est en gros la dissimulation de Stéphanie.
Voilà,
la dissimulation et l'absence de Dieu dans votre nature.
Voilà, c'est cette idée que c'est sous son nom que Dieu se dissimule.
Enfin, absent ou dissimulé, vous n'avez pas la même chose.
Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas forcément d'une femme, si on le voit comme ça.
Bruno Cassanti, est-ce que vous avez quelque chose à nous faire partager?
Une chose peut-être dans la suite de votre première question, madame, sur le fait que ce soit un texte qui a mis un texte de crise. Postérieure à la crise, constitue comme un outil de la tradition fourni aux Juifs pour interpréter ce qui vient de leur arriver ou ce qui leur est arrivé comme relevant du plus grand risque pour eux. D'abord, moi, je suis de votre avis, c'est-à-dire que je pense que Fanny a évidemment raison sur le fait que la Shoah en réalisant l'extermination sort du cadre, et donc qu'il n'y a pas de pourim de la Shoah de ce point de vue. Mais je pense que vous avez raison, et que Yerushalmi a raison, et que Sholem a raison, parce qu'ils font le même geste que de relier, en fait, Kitra Baer a raison, en écrivant Galout, de relier, si c'est écrit avant la Shoah.
C'est pas un détail.
C'est pas un détail, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, c'est écrit dans les années 30 et que les situations
consonnent.
À quel niveau, en fait, elles consonnent? Elles consonnent, à mon avis, au plan de ce que Dany a réussi à tirer du texte, en fait, qui est il y a une situation dans les crises. Il y a plusieurs niveaux de crise, et il y a un niveau de crise qui active la Megillah de façon singulière. Le niveau de crise qui active la Megillah de façon singulière, c'est quand on passe, ça Dany, je pense que c'est très important, en fait, d'une situation de protection acquise à sa rupture brutale. Voilà. Et donc, que dans l'histoire des Juifs, il y a eu des périodes, et en fait, il n'y en a pas tant que ça, au fond. Il y a eu, effectivement, l'âge d'or espagnol, et la façon dont les communautés juives vivaient leur intégration, en fait, et l'expulsion. Donc, cette rupture de rythme dans le... Il y a eu les années 30, hein.
Dis-le.
Oui, il y a eu la France et il y a la France peut-être aujourd'hui, et c'est ça, ça sera ça ma question. Enfin, c'est pas une question, c'est une remarque, et il s'agit de mettre ça au milieu de notre discussion. Le fait que ton livre a été écrit aujourd'hui, il a été écrit dans la séquence, en fait, c'est pas un... 2003. 2017, il est parlé en 17. Et donc, effectivement, alors qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit, je crois, c'est peut-être ça qu'il faudrait mettre en discussion ici, dans le Bêta Midrash. Le fait que la Megillat Esther a ce statut singulier de texte, de pouvoir être, par sa narration, par sa texture, réactivable différemment, hein, différemment suivant les époques. En fait, c'est un texte présent. Il l'a présenté comme un texte toujours présent. Quand tu dis on maintient l'incertitude sur le dénouement, hein, dans la façon même de le lire, hein, les Juifs sont projetés dans un présent, comme si... Et c'est pas un comme si, en fait. Ils ne savaient pas très bien, ils ne savent pas, hein, ce qui va leur arriver demain. Voilà. Alors, ça, je crois que c'est important politiquement aujourd'hui, mais c'est aussi important du point de vue pour le juif de l'étude. C'est-à-dire, pour le juif de l'étude, qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un texte dans le corpus qui met la communauté, le peuple, dans cette situation de ne pas savoir, hein, et de se penser comme pouvant devoir partir, comme tu dis, hein, pouvant devoir partir.
Un peuple intégré, très intégré à la société.
Voilà, même. Voilà. Et à la société française, voilà. Et à la société allemande, et à la société espagnole de l'époque. Donc, c'est ça que je voulais simplement apporter dans la discussion. Est-ce que, pour la tradition, ce texte a ce statut temporel particulier, hein, Hervé, c'est cette question que je t'adresse aussi. C'est, est-ce que dans ce que tu as dit sur la loi vivante et le fait que le scénario de Dany est enserré et compris, en fait englobé dans l'ensemble que tu as décrit, est-ce que cet aspect-là de la temporalité particulière et de la mise en situation d'incertitude radicale, hein, est vu, perçu par ceux qui l'étudient, en fait. Voilà, c'est ça.
Je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est vraiment un texte structural. C'est vraiment quelque chose qui est un modèle, ce texte, dans notre situation. La question qui me semble importante, c'est comment s'applique ce modèle.
Et comment, en fait, il se réapplique, c'est-à-dire, oui, comment il s'applique, oui, différemment, exactement, comment ça s'applique. C'est l'actualité, en fait.
Et subsidiairement, et c'est la même chose, je peux le formuler autrement, est-ce qu'on lit la Megillat Esther de la même façon après la Shoah?
Oui, là, c'est...
Non, mais c'est encore une manière de dire quelle est la vie de ce texte.
Exactement. Non, mais je suis d'accord sur le fait qu'on ne la lit pas de la même manière après la Shoah, et on ne la lit pas de la même manière après la création de l'État d'Israël. Ça aussi.
Alors, c'est voilà. Un élément très différent de la situation d'Ariester. Parce que là, il y a une souveraineté d'Israël, et ça n'était pas du tout la situation des Juifs à l'époque de la Médina Tester.
Juste pour mettre en valeur quelques notions de l'étude et de la Médina. La Médina Tester, c'est un des 24 livres de la Sainte. Et c'est aussi le titre d'un des traités de Mishnah et de Talmud, ce qui est une exception. Il n'y a aucun des Kitvei HaKodesh qui a reçu un traitement de ce genre. Il y a dans la Maseret Megillah et des discussions, on va dire, dans le traité de Mishnah, donc des discussions halachiques liées à la Megillah, mais il y a aussi, et ça aussi c'est une exception, dans le traité de Megillah, un commentaire verset par verset de toute la Megillah d'Esther, ce qui fait une correspondance exceptionnelle entre le corpus de la Torah écrite et le corpus de la Torah orale. Alors maintenant, il y a encore quelques mots à dire sur le texte, la texture même de la Megillat Esther. La Megillat Esther, comme des Kitvei HaKodesh, elle est aussi une exception. Et ça, c'est pas sa faiblesse, c'est sa force, qu'elle a été intégrée dans le corpus sans comporter le nom de Dieu. Kitvei HaKodesh, les écritures de la sainteté, ça veut dire qu'on peut rapporter ces écritures à une sainteté. La sainteté première des Kitvei HaKodesh, c'est le Shem HaKodesh. Dire d'un texte des Kitvei HaKodesh qu'il a ce caractère-là, malgré qu'il ne comporte pas le nom de Dieu, c'est dans le même mouvement avoir désigné ici la force d'étude que va comporter ce texte. Étant donné que la sainteté de ce texte ne réside pas dans les mots qu'il contient, puisqu'il ne contient pas le minima requis pour être appelé Kitvei HaKodesh, c'est-à-dire comporter le nom de Dieu. Donc, s'il y a, on va dire, et ça c'est comme M. Trancard l'a souligné, s'il y a un point d'étude particulier, c'est jumelage de la Megillah en tant que Kitvei HaKodesh et en tant que traité de Torah orale. Et ces deux choses-là se conjuguent pour pointer justement quelque chose qui est à l'étude. Et par rapport à ça, donc, ouvre toutes sortes d'horizons. Et peut-être que le politique, il fait partie de ces horizons-là. Mais en quoi? Moi, ça serait la question que j'aimerais vous adresser. En quoi le texte de Esther, plus que celui de Ezra, par exemple, Ezra et Nehemia, en quoi le texte de Esther, il est pour vous porteur d'une Torah, d'un enseignement politique? Alors que, de manière générale, la politique, la problématique générale, aussi bien de la Megillat Esther dans les Kitvei HaKodesh que la du Maseret Megillah dans la tradition orale, elle a rendu, on va dire, de façon beaucoup plus éclatée, beaucoup plus riche, ce que pouvait contenir une pièce d'écriture de la sainteté sans comporter le nom de Dieu.
En fait, je dirais que la réponse est dans la question. C'est précisément parce qu'il n'y a pas de nom de Dieu. Donc, le nom de ce par quoi se soutient la vie du peuple n'est pas mentionné. Donc, il est absent, son nom est absent du texte. C'est en tant que problème de son absence, c'est par là que la politique s'en. Parce que si Dieu occupe toute la place, s'il est là, la politique ne peut pas surgir.
Parce que
elle c'est pas insignifiant par rapport à l'immensité de la chose qui est posée.
Et c'est le seul.
Ce qui est posé, c'est pas le problème de la politique directement, c'est le problème de dire d'un texte qui s'appelle Kitvé Kodesh sans posséder le minimum qui est requis pour s'appeler comme ça. Ça veut dire que le texte, avant d'avoir,
alors, on va dire, vous avez raison, mais c'est vrai. Mais justement, qu'est-ce qui est saint? Pour finir, qu'est-ce qui est saint quand même, malgré que les Juifs survivent? Ça, c'est la réponse, et c'est pour ça que c'est un traité politique. C'est-à-dire que c'est le seul livre, pour toutes les raisons que vous venez de dire, et c'est pour ça que c'est le seul livre politique.
Il y a un travail de la politique, mais qui n'est pas un traité, on va dire, de la politique juive, si. Qui est en rapport
non.
avec l'histoire politique des Juifs, mais comme n'importe quel texte de la tradition,
non.
que ce
c'est
soit le oral.
C'est le seul texte qui fait partie des livres saints et qui se déroule en exil.
Il se passe bien.
Donc, qui se déroule, d'ailleurs, c'est le seul texte qui se déroule du début à la fin. Je mets de côté. C'est le seul texte narratif qui se. C'est. Pas entièrement. Non, pas entièrement. C'est pas vrai. Non, c'est le seul. C'est le seul texte dans lequel la seule mention qui est faite de la terre d'Israël, c'est quand on dit. Quelle est la descendance de Mardoché? Quelle est l'ascendance de Mardoché? Il est de Jérusalem.
Oui.
De la tribu de Benjamin, etc. C'est la seule mention. Je pense que, pas pour nous, mais je pense que pour les générations de commentateurs, ça a été une espèce d'énigme. Et plus l'énigme est grande, plus naturellement l'exercice. La sagacité avec laquelle il faut manier le texte est grande. Parce que il a fallu quand même que Dieu soit présent malgré son absence. Pour ça, il a fallu exercer énormément d'inventivité. Le dédoublement de la figure du roi en est le produit. Si Dieu était mentionné, le roi ne serait pas dédoublé. Et donc, c'est tout à fait central. Et c'est pour ça que c'est le seul texte qui dit quelque chose de la politique de l'exil. Naturellement, tous les rois disent quelque chose de la politique, tous les rois d'Israël ont dit quelque chose, tous les prophètes qui ont pris la parole pour gronder le peuple ont dit des choses de la politique, etc. Aussi, les prophètes, beaucoup de la politique étrangère. Mais, naturellement, il y a de la politique partout, si on entend par les événements politiques qui se déroulent. Mais là, c'est pas du tout ça. C'est la possibilité de comprendre ce qu'est pour le collectif de vivre politiquement en exil. Politiquement. Et ça, c'est une singularité. Et naturellement, l'absence du nom de Dieu a été le facteur décisif du déploiement d'une compréhension politique de la situation. Quand le commentaire dit, il y a marqué Hameler, Meler Malchim Malchim. Il l'a retrouvé. On a retrouvé Dieu dans la Megillat Esther. Il y a d'autres manières de le faire ressurgir, Esther Panim, il y a tout un ensemble d'indices. Mais l'un dans l'autre, ce qui ressurgit là, c'est dès lors qu'il n'y a pas de roi d'Israël, qui est le roi? Et comment est-ce qu'on vit dès lors qu'on est à l'étranger? Donc il y a deux Torahs et il y a deux Mlachim. Il y a deux autorités politiques, il y a deux lois. C'est. Et il n'y a que le livre d'Esther. Alors notamment, le fait qu'il y a deux lois, ça, la littérature rabbinique est abondante là-dessus. Énormément de choses en découlent, tout l'édifice, etc. Mais le fait qu'il y ait deux rois, il y a comme une espèce de. Pourtant, il y a tout ce qu'il faut pour conclure la manière dont on peut mener une politique, et pourtant, ça reste quand même sous-traité d'une certaine manière. Comme s'il y avait là une espèce de boîte de Pandore qu'on ne voulait pas ouvrir parce que dès lors que l'initiative du peuple devient trop grande, naturellement, c'est le pan de la confiance en Dieu qui vient à diminuer. Donc il fallait maintenir cet équilibre tout en ouvrant la possibilité d'agir dans cette situation. Et il appelle que le nom de Dieu n'y soit pas pour que la pensée puisse accéder à cette situation politique nouvelle. C'est ça ce que j'appelle l'axiomatique du gardien. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans tous les commentaires qui vont suivre, on dira que celui qui sort pour aller remplir le même rôle qu'Esther ou que Mardoché, ils connaissent des langues, mais ils oublient la Torah. Il y a une espèce de défiance à l'égard de ce personnage qui va aller dans l'entourage du pouvoir suprême pour plaider la cause des Juifs. Il y a un commentaire qui dit de Mardoché, il a été avalé parmi les nations. Vous savez quoi, il a été. Bon. Voilà, donc il y a une volonté de ne jamais ramener ça à des statuts, de ne pas le cristalliser en une politique explicite, et pourtant il faut cette fonction doit être remplie. Cette fonction doit être remplie et elle est remplie. Elle est remplie de la même manière que Esther remplit la fonction, c'est-à-dire elle n'a pas de compétences particulières. Elle n'a pas de rôle défini. Elle surgit dans le récit et elle agit de manière heureuse au bon moment. Elle saisit les opportunités. Ça va être tout le temps la figure du Shtadlan à travers l'histoire, empiriquement attestée.
Je sens qu'on arrive à un moment important de la séance, mais juste avant de continuer les questions, je vais léguer la parole à Joe. Et si vous voulez même aller dans la reine.
Pourquoi dans la reine? Non, c'est bien là. C'est dire des choses qui vous paraissent évidentes, mais qui pour nous, qui avons accepté d'accompagner Alexandre dans son entreprise, est un pari. Vous réalisez, je pense, chacun, qu'on est dans un lieu dans lequel nous faisons quelque chose qui n'est pas habituel. En général, dans ce lieu, on prend les livres qui sont sur les étagères, on ne va pas chercher les livres à l'extérieur. Et quand Alexandre nous a proposé cet exercice, la question était de savoir est-ce que ça a un sens de faire dialoguer un travail qui est fait à l'extérieur avec le travail qui se fait dans le Beit HaMidrash. Pourquoi cette question ? Quand Alexandre a créé son projet politique, son nom l'indique si je puis dire, son idée, c'était que le judaïsme avait des choses à dire au monde et que les jeunes juifs et les moins jeunes juifs ne savaient pas soit quoi dire, soit comment le dire. Et il a ouvert une parole publique et il a eu énormément, entre guillemets, de succès au sens où les gens sont venus, de plus en plus nombreux, écouter cette parole. Et il nous a réunis, quelques personnes, avec Claude Rivlin, avec Nicolas Veil, avec le Rav Grunstein et avec d'autres, pour dire, je ne sais pas, est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois aller dans une autre direction? Et on a eu une réflexion intéressante, c'est que, bien sûr qu'il faut continuer. Entre guillemets, ce pouvoir de convocation qui fonctionne, après tout, c'est un peu la raison d'être de notre action les uns et les autres, qui est celle d'enseigner, faire connaître, faire découvrir des aspects du patrimoine juif. Mais de l'autre côté,
peut-être qu'il faut faire un travail en sens inverse, c'est-à-dire aussi de retourner sur la table de travail. Nous, de retourner sur la table de travail. Pas seulement d'amener du savoir vers les autres, mais de dire, mais qu'est-ce que nous avons à faire. Et puis, l'idée est venue progressivement, d'ailleurs à partir d'une des dernières séances, qui était intéressante de ce point de vue entre Henri Adam et le Rav Abiges, était de dire, finalement, c'est cette rencontre impossible, difficile, qui peut-être est le secret de ce qu'on pourrait faire par la suite. Alors, très modestement, puisque je suis le moins savant de notre groupe, je dirais que je retiens de cette discussion et de celle que nous avons eue sur votre livre, Monsieur Trom, la seule question qui m'est venue depuis le début. Comme il y a eu un moment où on a canonisé les livres bibliques et on a dit celui-là on fera partie, celui-là on fera pas partie, est-ce qu'il n'y a pas un temps où on devrait décanoniser certains livres et par exemple déclarer le livre d'Esther obsolète? Parce qu'effectivement, comme il ne répond pas à la question de notre actualité, comme il ne répond pas à la question de la Shoah, alors il y a un vrai problème. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi continuer à le lire aussi religieusement, si je puis dire, et comme a dit Yonah Abitbol, en plus il y en a qui se donnent la peine de l'étudier très sérieusement avec la Mishnah, le Talmud et puis tous les commentateurs. Voilà. Donc, nous on s'est dit que on va pas répondre superficiellement à cette question, mais vous avez évoqué une figure qui a l'air très importante et qui n'a pas été suffisamment explorée, qui est cette figure du gardien. Bien sûr, dans le gardien, avec la question de l'intermédiaire, de l'intercesseur, la figure du leader à travers Mordechai, et la figure féminine à travers Esther, et puis comment ça fonctionne entre l'intérieur et l'extérieur, comment ça fonctionne entre la politique intérieure du peuple juif, et les juifs en font tout le temps, si je puis dire, pour savoir comment survivre, transmettre, etc., et la politique extérieure, et en France on est vraiment, vraiment extraordinairement bien servi avec le dîner du CRIF, qui n'a pas encore donné lieu à des livres ou à des réflexions, mais c'est un phénomène absolument incroyable que ce rendez-vous annuel où tous ceux qui ont un pouvoir en France et même un peu à l'étranger se sentent obligés d'être autour d'une pensée qui est creuse. En réalité, les Juifs ne savent pas plus quoi faire, ni d'aujourd'hui, ni de demain, par rapport à ça, mais on dit, mais peut-être qu'eux, ils ont quelque chose à dire. Alors, on vient les écouter, on ressentit, ah, le dîner était bon, j'ai fait une photo avec le ministre, machin, et puis on recommence l'année d'après, et moi, je sais pas, ça fait 6-7 ans, qu'après chaque dîner du CRIF, les gens que je connais qui le fréquentent, me disent, ah, c'était la dernière année. Ça se répète, chaque année, on se dit la même chose. Alors, je dirais, ça reste quand même, voilà, ça reste quand même sérieux parce que c'est comme la lecture de la Megillah. On n'a rien d'autre, donc pour le moment on la lit. On sait pas, on sait qu'il y a quelque chose dedans. Donc ce dialogue-là, enfin l'idée qui nous est venue, c'est qu'il pourrait donner lieu pendant les mois à venir à 4 ou 5 rendez-vous comme ça, comme on a commencé aujourd'hui. Bien sûr, à repenser ou à configurer autour de ces 4 ou 5 questions. Des figures dont on a parlé, la figure du gardien, vue par votre travail et peut-être par d'autres, par exemple je vois M. Salansky et d'autres, mais aussi vue par le Rav Goldstein qui n'a pas encore dit un mot mais qui n'en pense pas moins ou voilà Yonah Abitbol qu'on a écouté et d'autres voilà, donc l'idée, c'est de ne pas se quitter en se disant au revoir. Vous mangez quand même des petits gâteaux parce que Alexandre tient absolument à ce qu'on soit nourri aussi matériellement. Mais l'idée, c'est qu'on se donne 4 ou 5 rendez-vous pour aller plus loin, bien sûr avec une préparation, puisqu'aujourd'hui, c'est grâce à vous que la préparation a été faite, puisque vous nous avez livré une somme, mais il y en a qui l'ont lu, il y en a qui ne l'ont pas encore lu, mais on pourrait encore aller plus loin. Voilà. Je vous invite à réagir à cette proposition. Mais comme on ne se connaît pas, vous pouvez profiter pour vous dire, pour dire votre nom. Voilà, moi je m'appelle Jotoledano. Je suis proche de ce travail par le fait que je dirigeais l'Alliance israélite universelle et que pendant 8 ans j'ai accompagné la naissance de projets, d'études, de séminaires, de programmes en tout genre. Ça, c'est quelque chose aussi très intéressant par rapport à ce qu'on est en train de vivre. C'est la multiplication des lieux d'études juives, où il se passe des choses très différentes, mais il y a une multiplication, mais assez sérieuse et assez variée, de lieux d'études juives en France, ailleurs peut-être dans le monde aussi, mais en France. Et en France, c'est d'autant plus intéressant qu'une grande partie des juifs ne sont pas hébraïsants, et donc il faut dire tout ce qu'on dit en français comme on a essayé de le faire aujourd'hui, mais vous avez vu qu'on ne peut pas suivre si on ne sait pas ce que c'est les Ishtadel et la Megillah et des choses comme ça. Mais non, ça marche en France. Voilà, mesdames, messieurs.
Je voterai du fait que c'est parti comme scientifique, comme vous avez dit, pour combler une lacune. Nous n'avons pas cité le clou par lequel la Megillat Esther est accrochée au rituel juif. C'est qu'avant de lire la Megillat Esther, on dit béni sois-tu l'Éternel qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de lire la Megillat Esther. Eh bien, cherchez dans toute la Bible, vous ne trouverez pas où Dieu a ordonné de lire la Megillat Esther. Pour une raison évidente, c'est que ça s'est passé tellement longtemps après les événements relatés par la Bible qu'il n'était pas question que Dieu l'ordonne. Alors pourquoi c'est dit comme ça? À cause de Kimloub Kimou. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit « Nase Adam Betalmen » au pluriel. Il y a une tradition qui dit ce pluriel désigne Dieu et l'homme. Moi et l'homme créons l'homme. Et ils ont fini par le faire quand ils ont dit Kimou et Kimlou. C'est-à-dire que non seulement ils ont observé la Torah, mais ils l'ont écrite. Donc c'est une coécriture de Dieu et de l'homme qui est proclamée par la bracha qui l'introduit. Autrement dit, c'est la fin du projet de collaboration que Dieu avait énoncé dans la Genèse.
C'est pour ça que c'est la dernière fête qui va rester.
Oui.
Voilà, on a un petit quart d'heure pour vos réactions. Monsieur Trump, vous pouvez commencer si vous voulez.
Non, j'ai
simplement une idée qui était.
Voilà.
Je pense que c'est une espèce de rémanence de l'alliance en République. C'est pour ça que c'est si important. Alors, il y a quoi qu'on pense du CRIP, hein, moi j'en pense rien, je ne connais pas cette institution, mais de voir venir, de voir le pouvoir de la République réassurer les juifs, c'est pas pour personne. Comme réassurer les juifs, ça fait partie de ce. Ça devrait pas avoir lieu normalement en République.
Non, le miracle, c'est pas dîner, c'est le Christ. Parce que le Christ est connu comme fédérant tous les jours. C'est pas bizarre d'ailleurs, mais.
Et c'est pour ça que le rituel déplaît, et en même temps, tout le monde dit c'est la dernière fois et tout le monde revient l'année d'après, parce que c'est quand même. Je pense que ça fonctionne comme une réassurance. Ça apaise les inquiétudes. Alors ça dépend des périodes, mais aujourd'hui certainement. Ça les apaise à tort, à mon avis. Ça ne change rien, mais ça continue.
Je fais juste une petite interruption puisque Jotoledano a parlé de tous les efforts que fait Alexandre pour lancer politique. Je fais passer deux petites feuilles de participation aux frais pour ça, et puis plus généralement, si vous voulez encourager le projet de notre ami Alexandre. Voilà.
Moi j'avais
juste dire quelque chose par rapport à la question de Monsieur Saint-Cy, qui avait le souci de poser la question de savoir quelle est l'interdiction, et en particulier du fait de discuter d'un travail universitaire dans un tel espace, cette question est introduite par un questionnement sur, sur la question de la politique de l'univers. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme modèle au plan politique pour s'orienter en tant que juif, en tant que collectivité, aussi bien en Galoute qu'en Israël. Et alors, à travers ce que vient de dire monsieur, qui nous parle. Voilà. Et bien, c'est très intéressant ce qu'il nous a apporté, parce qu'il montre que c'est évidemment un texte paradoxal, qui fait exception, hein, alors que, effectivement, bien entendu, nous avons tous un texte central. Et ce texte qui fait exception, à mon avis, en soulignant le fait que nulle part n'est mentionné le nom de Dieu, ça fait question sur la sainteté, justement. C'est un texte saint, Dieu n'est pas mentionné. Donc, du point de vue de. Je dirais du point de vue religieux, du point de vue juif, on peut s'interroger sur cette immense ouverture sur la question de la sainteté, du sainteté sans Dieu. Voilà le parallèle que je ferai entre la question du politique, si on voit le versant philonie, disons, et si on voit le versant plus centré sur la Torah, on peut s'interroger sur la question de la sainteté, puisque de toute façon la Mégillat Esther ne traite pas seulement que des juifs, mais traite aussi du changement de pouvoir au sein du royaume de la Babylone. Ça concerne aussi les non-juifs. Voilà.
Moi, j'avais une... Mais ça nous ramène peut-être au débat, et vu leur tardive. C'est que en vous écoutant répondre, vous disiez que c'est la Megillat Esther est le seul texte exilique écrit en exil. Mais il y en a un autre en fait qui d'ailleurs sert peut-être de contre-modèle que vous évoquez d'ailleurs. Même c'est Shemot, l'Exode. Qui se passe entièrement en exil, et où il y a une figure qui d'ailleurs a servi pour longtemps de modèle, y compris auprès des non-juifs du politique, c'est celle de Moïse, Moïse législateur, puisque même certains connaissent peut-être le fameux texte de Junius Fray sur Moïse, écrit en pleine Révolution française, bon, avant que le pauvre soit guillotiné, mais. Et l'Exode est aussi le livre où apparaît un des noms de Dieu, Faust. Et qui a aujourd'hui dans la réflexion sur ce qu'est la politique juive inspiré tout un ouvrage à Michael Walzer, au philosophe Michael Walzer, qui a vu dans l'Exode le modèle, au fond un modèle de politique révolutionnaire d'ailleurs, et non pas seulement d'arrangement, d'accommodement, de survie. Alors est-ce qu'il n'y a pas là aussi une autre voie de penser la politique juive qui nous mettrait plus du côté des révolutionnaires que du dîner du Christ? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je pense que ce ne sont pas des textes exiliques, mais c'est vrai. Ils ne sont pas exiliques, parce que pour qu'il y ait exil, il faut qu'il y ait le don de la terre.
Il y a eu la promesse de la terre, et le peuple, les Hébreux, disons, sont en Égypte.
Oui, c'est ça, mais il faut qu'il y ait eu la promesse de recevoir une terre et d'avoir reçu. Donc, Shemot est pré-promesse de la terre. Elle se passe avant, donc le texte, alors j'entends de nouveau, il y a depuis le lot, tu vois, des petits patillages, des choses comme ça, mais on suit chronologiquement le texte. Le texte, c'est avant la promesse, avant la conquête de la terre, la promesse de la terre. Et surtout avant l'installation sur la terre. L'exil suppose qu'on soit installé sur la terre. Donc elle suppose une perte. Et c'est pour ça que le rapport à la terre, c'est pas juste. A été transporté comme une domination de la terre. Mais pas seulement de se réjouir d'aller la conquérir.
Forcément, parce que c'était bien comment on a changé de timing, on est passé à un autre. J'avais un truc tout à l'heure, mais
ça va pas plaisir.
L'idée, c'est de repérer les choses qui me semblent émerger de la discussion que vous avez, parce que comme moi, je n'ai pas lu le livre, je ne suis pas autorisé à parler directement du livre et de son contenu, mais je dis que dans ce problème, qui est ce à quoi je suis sensible, qui est essayer de déterminer ce qui serait la position de la tradition juive par rapport au politique et avec l'idée que le politique est célébré dans notre monde. Le politique est vu comme un des modes de la condition humaine. Un autre aspect qui me semble sortir, c'est la question du futur contingent. Dans la célébration du politique dans notre monde, il y a généralement une valorisation énorme du fait que dans le politique, il y a le futur contingent pour l'intersubjectivité humaine, et c'est ça qui est extraordinaire. On se jette dans le politique, et c'est là qu'on va être vraiment à la hauteur du futur contingent, on va jouer le futur contingent. Est-ce que ça peut être valorisé, récupéré du côté de la tradition juive? Est-ce qu'on connaît quelque chose comme cette exaltation du futur contingent dans la perspective traditionnelle juive? Par exemple, on pourrait dire qu'il y a un futur contingent gravissime dans la continuité juive, qui est: est-ce que la fidélité d'Israël à l'étude observante va se maintenir, ou est-ce que tout va être oublié?
Un futur qui peut être ceci ou qui peut ne pas être ceci.
Je reviens à l'idée que le futur contingent, ça perturbe la rationalité, parce que l'énoncé que je vais faire maintenant, Aristote. Mais bon, il y a une valorisation. Dans la politique, on se commet au futur contingent, on s'engage dans une action dont l'issue est absolument contingente. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, il me semble qu'il y a un futur contingent qui hante l'expérience séculaire à la traversée des siècles par les juifs, qui est: est-ce que ça va disparaître? Est-ce qu'on va oublier? Mais je pense que c'est pas le même. À nouveau, ma conclusion serait que c'est pas le futur contingent exalté dans le politique. C'est un autre.
J'en sais justement. L'autre mode de moi tu le mets, toi tu le mets. L'autre, disons, de la disparition de l'étude.
L'étude d'observance, on pourrait l'oublier.
D'accord.
Et tout le monde pourrait l'oublier.
Ce qu'on peut déduire de ce que Dany a dit, c'est la disparition. Voilà. En fait, c'est le problème dont on est parti à travers la lecture de.
Oui, c'est vrai. En fait, je vais dire que la différence, c'est que le futur contingent du politique, ça doit être un futur contingent que tout le monde comprend. Et si on dit que le futur contingent, c'est le peuple juif va survivre, tout le monde arrive à comprendre. Mais si on dit que le futur contingent, c'est est-ce qu'on va garder la mémoire de la différence parce qu'on va l'oublier, pas tout le monde comprend. C'est une manière de dire, c'est pas le même.
Oui.
Je propose, c'est que l'on a conclu et dans les perspectives de prochaines études à venir.
C'est important. Et sinon, ce sera le 19 février, si c'est. Pardon?
Quelle heure?
Le soir,
20h30.
On annoncera un peu plus clairement les titres, les thèmes, un peu plus tard.
Oui, non. Avant que vous partiez, peut-être, je ne sais pas si ça se fait, si on peut faire une photo.
Vous voulez que je sois sur la photo? Moi, une photo avec le rap, j'en ai pas. C'est vrai que c'est un vrai plaisir.
Oui, tout le monde. Avant, je disais, il ne faut pas créer. Aujourd'hui.
Juste avant de terminer, je tiens à souligner le plus important travail fait par David Strom, qui est enfin quelqu'un qui pense le judaïsme en langue française, donc avec son livre La Fédération juive, mais je crois que ici, pratiquement tout le monde
de l'acheter. Vous l'avez lu. Je signale également aussi un autre universitaire français qui sort aussi le judaïsme. En français, excellent livre, Jean-Michel Savoski. Vous avez l'honneur d'être là ce soir. Le PJ, ceux qui ne l'ont pas encore lu, lisez-le rapidement. Venez à la librairie du temps, tant qu'à faire. Enfin, il fait partie du Cri des scientifiques et je critique littéraire au monde. Il a posé des questions sur Heidegger et l'éthique du ressentiment. Heidegger et Heidegger, Nicolas Veil, un livre de savant que je conseille également. Et aussi, beaucoup plus léger, mais bon, tant qu'à faire. Vous savez, je fais nouvellement partie du comité de rédaction de l'éclaireur. Alors, le numéro 2 est sorti, le premier est sorti en septembre, il était sur deux modèles, c'est un numéro. Le numéro 2 vient de sortir en décembre, obsédé textuel. Il est un peu plus inégal, il y en a une dizaine, vous pouvez descendre. Et à partir du numéro 3, 4, 5, nous verrons Jean-Michel Charsky, David Fromm, Rabat Vigès. Je commence à prendre un peu plus à ce projet-là.
Qui édite
Si vous voulez juste, comme ça c'est quand même un souvenir, même si on se revoit bientôt en fin de compte.
J'espère.
Après, après la photo, mais venez, voilà, ça va être le lien.
Vous êtes
encore là.